Bonjour, bonsoir les amis, ici Nenki. L'autre bout de la ligne, une entrevue bien spéciale avec mon ami et auteur Pierre de Châtillon.
Salut François-Pierre.
Ça va mon grand, en forme. Aujourd'hui, Pierre va nous parler, va nous aussi partager avec nous le résultat de ses recherches et tout cela à partir de son livre « Bouleversement climatique ». Les cycles révélés de l'Atlantide au 21e siècle. Alors, Pierre, si je te dis que les gaz à effet de serre occasionnés par l'homme ont gaspillé la planète, et puis le réchauffement climatique en est la preuve, on est maintenant pris avec les conséquences des exagérations de tout le monde, puis il ne reste plus donc à payer pour réduire les émanations de gaz, ce qui nous prépare aussi une belle taxe sur le CO2. Pollueur-payeur, ce sera nous, et non pas ceux qui ont empoisonné la planète. Et si on veut survivre et résoudre ce problème, on va devoir payer de nos poches. Alors, toi, est-ce que tu trouves ça raisonnable?
Ouais, partiellement raisonnable. En fait, la pollution de la planète, c'est quelque chose de sinistre et d'incompréhensible, hein, que ce soit les rejets industriels, le monoxyde de carbone des moteurs à essence, que ce soit la pollution nucléaire ou l'établissement des concepts de biens à durabilité mesurée, hein, c'est-à-dire ces biens-là qu'on achète et qui durent une très courte durée de temps. Tu achètes en radio aujourd'hui, tu peux pas penser à le donner à tes enfants, là, tu vas être en radio jetable. Donc, ce concept-là de biens à durabilité mesurée est une énorme source de pollution dans notre monde moderne. Ben, c'était déjà sinistre et incompréhensible il y a un demi-siècle, alors que les mots pollution par environnement et écologie n'étaient même pas inventés. Aujourd'hui, ça a pris vraiment une tournure un peu misérable. Sur cet aspect-là, tu as tout à fait raison, ça n'aurait jamais dû se produire. Dans une société responsable, ça n'aurait jamais dû se produire. Concernant le reste, il n'y a plus rien de raisonnable. Là. En dépit des questions et des considérations, aussitôt qu'il y a question de climat, c'est un véritable dogme. Il n'existe plus qu'une seule position, c'est la pensée unique, le réchauffement climatique occasionné par les gaz à effet de serre.
Et l'activité humaine.
Non, les gaz à effet de serre occasionnés par l'activité humaine, c'est-à-dire que ce soit l'industrie ou que ce soit les véhicules automobiles, à un moment donné, c'était le gaz fréon des frigidaires.
Oui, oui.
Le styrofoam, en fait, tout y a passé. Mais le point commun dans toutes ces causes-là qui ont été mentionnées depuis 25 ans, c'est que l'homme est toujours en arrière de tout ça. L'homme est toujours l'outil derrière une conséquence qui a causé. Alors, c'est ce qui est promotionné. Ça, c'est la vérité qui est lancée là, à tout vent sur tous les médias. Cette constance-là d'avoir continuellement l'homme derrière, ben il y a un objet à ça, c'est qu'évidemment, c'est notre talent de consommateur qui est recherché à partir du moment où le réchauffement climatique est une constance qui peut être réglée en mettant des sous, en mettant de l'argent, et c'est quelque chose qui peut être réglé en mettant des sous, en mettant de l'argent. Ça devient donc un problème pour lequel plus le réchauffement va être élevé, plus le réchauffement va être important, et plus la quantité de sous qu'on va devoir investir va être important pour le régler.
Il y a
25 ans de ça, une variation de climat naturelle qui est engendrée par El Niño, c'était la cause de base, ça c'était la grande vérité, puis à partir de El Niño, là, ce qui est une cause qui a disparu, là, à partir de là, l'homme a toujours été la cause. Qu'importe ce qui était le mécanisme derrière, que ce soit les gaz de le fréon des frigidaires ou le CO2 des véhicules, l'homme était la grande cause derrière. Donc, à partir de ce moment-là, là, de 25 ans, là, il se mettait en marche un raz de marée absolument imparable. Un modèle scientifique qui était gonflable aux besoins, là, avec une panoplie de causes directes possibles, dont beaucoup proposaient des mécanismes qui étaient parfois absolument ridicules, obscurs, puis parfois même absolument ridicules. Puis dans tous les cas, la cause reposait sur une responsabilité humaine.
Mais il y avait une grosse cause psychologique à ça aussi, qui était le sentiment de culpabilité, que l'humanité devait porter le poids de la responsabilité. Donc, cette culpabilité faisait que, justement, on paierait plus facilement, on serait plus consentant à payer parce qu'on se sent coupable. Et il y a une grosse opération psy qui vient de Tavistock et qui est montée par l'Angleterre aussi derrière tout ça, tout ce scam-là. L'ONU est là-dedans. Tout le monde va se payer la traite. Les milliards qu'on va dépenser là-dedans, ça va tout aller dans leur poche. Il n'y aura rien qui sera fait pour refroidir le climat parce qu'il ne se refroidit pas.
C'est vraiment une taxe à la vie, hein. C'est un peu ce que ces gens-là pensent. C'est un peu d'avoir une taxe à la vie. C'est-à-dire, aussitôt que tu viens au monde, tu commences à respirer, tu payes une taxe sur ton respire. Et puis, plus vite que tu respires, ben, plus la taxe doit être élevée, évidemment, parce que ça suppose qu'il y a de l'émotion derrière. Et donc, tu as de l'émotion à vivre. Ce qui est assez intéressant comme concept. Mais tout ça, ça l'a donné, ben, une gigantesque caravane, là, bien pleine de politiciens, de financiers, très peu de climatologues, là, évidemment, là, qui fait, là, ça fonce à toute allure, là. Puis, il faut que tout le monde embarque dans ça. Une caravane qui possède la science infuse, elle a jamais changé d'idée depuis la première seconde, là, en dépit des embûches, là, ça l'a dévasté toute l'opposition possible, honnissant à vie quiconque soulevait un doute sur le dogme. Donc aujourd'hui, c'est cimenté. Tu n'es plus capable, dans une conversation, de mettre en doute le réchauffement climatique occasionné par les gaz à effet de serre. Tu vas te faire crucifier, en dépit du fait que là, ça commence à avoir une implication directe dans mon assiette demain matin. Alors, c'est pas une conversation qui est issue de la rhétorique, là. Il y a des gens aujourd'hui même, là, au moment où est-ce qu'on se parle, il existe une vingtaine de situations climatiques extrêmes dans le monde, dont 4 ou 5 en Inde, 4 ou 5 en Australie, quelques-unes dans le cœur des États-Unis, pour laquelle il y a des gens actuellement, au moment où est-ce qu'on se parle, qui sont déplacés. Et ça se produit à tous les jours depuis maintenant 3-4 ans. Et ces informations-là ne sortent pas vraiment. Fait que là, le cirque médiatique qui va jusqu'à distribuer à l'usage des verts militants là, des listes élaborées d'objections et de réponses concernant un réchauffement climatique occasionné par l'homme. C'est comme dans le petit catéchisme pour lequel toutes les questions et réponses étaient inscrites dans le livre. Puis, et là, on les a, ils sont apprises par cœur, ils ont tous les réponses. Et la première chose qu'on montre à ces gens-là, c'est de s'assurer évidemment de ne pas laisser aucune place au doute dans cette hypothèse-là.
C'est sûr que là, le dogme est établi. Tous ceux qui s'y opposent, non seulement c'est comme illicite, mais ça peut être même dangereux. Beaucoup de scientifiques ont perdu leur emploi pour avoir dénoncé l'imposture, l'effroyable imposture du réchauffement climatique causé par l'activité humaine.
Des menaces aujourd'hui, là, on entend, là, j'ai aujourd'hui des articles de journaux là, qui arrivent de l'Ouest canadien pour lesquels des scientifiques du climat qui ont une vision différente de la cause des gaz à effet de serre se font menacer leur vie, reçoivent des menaces à leur vie par courrier, leur disant de cesser ces prétentions-là, sinon qu'ils vont avoir des problèmes. Fait que c'est assez intimidant pour quelqu'un qui n'est pas confronté à ce monde-là, qui n'a pas vécu dans ce monde-là, c'est assez intimidant. Et les gens, c'est à se demander pourquoi est-ce que cette situation se produit-là. Dans une société raisonnable, la conférence mondiale sur le climat de Montréal aurait été l'occasion de présenter l'opinion hein, d'une foule de spécialistes participants comme des climatologues, des géologues, océanologues, en tout cas toutes les logues qui peuvent exister, qui présentent leurs travaux, des points de vue, qui présenteraient des spécialistes chargés de... Mais dans ce cas-là, au réseau d'information, les spécialistes chargés de répondre aux médias, c'était des sociologues. Ça a été des sociologues qui ont expliqué à l'écran, durant la conférence sur le climat de Montréal, qui ont expliqué à l'écran les raisons sociologiques des dissensions qui existaient entre les différents groupes participants à la conférence, en finissant par expliquer que tout le monde va bien finir par s'entendre et par comprendre le gros bon sens et de se ranger derrière l'évidence que tout ceci est bel et bien occasionné par l'homme. Je n'en revenais pas d'entendre ça dans la bouche d'un sociologue dans un média d'information comme RDI, Radio-Canada de l'information, il faut se le dire. Je n'en revenais pas d'entendre ça dans la bouche d'un sociologue à l'écran. Depuis quelques mois, le raz-de-marée de la caravane promotionnelle s'est transformé en véritable tsunami, on le sait, avec une image de plus en plus politically correcte. Là, tous nos politiciens sont tout à fait incapables de résister à l'appel de la sirène de supporter la cause du réchauffement climatique. C'est tellement cool d'être vert.
Ah oui.
C'est une espèce de course entêtée à la chefferie de partis politiques là, où la plus grande préoccupation des participants semble d'avoir la caméra le plus longtemps possible braquée sur eux autres, si vous voulez mon point de vue. Mais pendant qu'ils nous entraînent encore une fois dans la direction où est-ce que c'est encore le petit citoyen citoyen qui va écoper de cette facture-là. Hein, on s'entend bien, là, les pollueurs, ceux qui ont pollué durant les 20, 30, 40, 50 dernières années, qui ont laissé leur mécanique dans le Grand Nord canadien, traîner dans le Grand Nord canadien, au vu et au su de nos fonctionnaires, hein, qui étaient là pour surveiller ça, pendant qu'ils checkaient voir si le sous-sol, il y avait des métaux dedans. Ben, ces gens-là ont fait leur argent et ont disparu maintenant du marché. C'est comme ça que le marché économique est fait. Il est fait pour faire permettre à ces gens-là de disparaître facilement. Et nous autres, on reste avec la vieille mécanique pour laquelle il va falloir payer quelques centaines de millions pour aller sortir ça du Grand Nord, de nos poches, de la poche des citoyens. Fait qu'au cours des 25 dernières années, hein, les délais prédits par les spécialistes avant d'être touchés par les conséquences du réchauffement climatique sont passés graduellement de 2000 ans à 20 ans ou à peu près. N'importe qui peut le constater de visu, là. Chaque semaine qui passe, il y en a un lot surprenant de records, puis de catastrophes, puis de records du climat, là, qui impliquent des catastrophes qui sont croissantes en dimension et en quantité à travers la planète. Comme je le mentionnais tantôt, là, actuellement, hein, ce qu'on se parle, il y a une vingtaine de places sur la planète là, qui sont touchées par des revers climatiques, ne serait-ce que de la grêle, de façon importante. Non pas que ça ne se produisait pas avant. Ça se produisait, mais en quantité beaucoup moins. Ça n'arrivait pas aussi souvent. Les premières grandes catastrophes ont commencé à la fin des années 90, donc en 98 au Venezuela, lorsque l'eau, la pluie sans arrêt commençait à faire descendre des coulées de boue dans la montagne et a englouti plusieurs villages. Ben, ces catastrophes-là n'ont pas arrêté depuis ce moment-là. La différence, c'est que là, le climat, il commence à nous déranger dans notre cour maintenant, là, pas dans 2000 ans, comme les climatologues, ceux qui avaient le droit de parler dans les médias à l'époque, nous disaient, donc dans 2000 ans, l'eau va monter de quelques pouces. On s'en foutu que l'eau monte de quelques pouces actuellement. Il s'avère que l'eau qui va monter de quelques pouces, puis qui va engloutir quelques pouces, quelques pieds ou quelques mètres de côte, un peu partout autour de notre Canada ou de notre Québec, ou peu importe où est-ce que tu es dans le monde, il s'avère que ça risque d'être problème, d'être un des problèmes les plus insignifiants à laquelle on risque de faire face dans le futur. Pas dans 2000 ans, là. Maintenant, là, moi et ma famille et tout le monde, on risque d'en souffrir maintenant. Fait que comme citoyen concerné, je commence à trouver que la parade de Guignol déguisée en machine à sucer de l'argent n'a plus rien de drôle. Là. Ouais. Là, c'est dans mon assiette qu'elle joue actuellement. Il est simplement pas possible de faire confiance un tel carnaval politico-financier pour me dire la vérité, là, la vérité aux mains de faiseurs d'opinion et de désinformation sur un sujet qui est aux conséquences aussi importantes que ça, c'est profondément vicieux et je décroche à partir de ce moment-là.
Ben, il y a jusqu'à Greenpeace qui a été, évidemment, qui est, si tu veux, une extension, une OGM de l'ONU. Et puis, connaissant aussi ses bénéfacteurs et tout ça, pour te dire que on voit, c'est Greenpeace qui embarque dans l'idée de culpabiliser les gens, de dire oui, c'est vrai, l'activité humaine réchauffe le climat, il rembarque là-dedans. Oui, je suis d'accord qu'il va falloir faire des sacrifices, va falloir payer pour ça. Tu comprends donc le petit peuple que Greenpeace représente, ou si tu veux, les contestataires par rapport à la sauvegarde de l'environnement? Ben, sont aussi manipulés que le reste. Et malheureusement, Greenpeace n'a pas accepté même de lire ou de contempler les rapports de tous ces scientifiques-là, climatologues, professeurs d'université, ingénieurs en climatologie, dans le sous-sol, géologues, tous ceux-là ne sont pas écoutés. Bon, mais pour qui travaille Greenpeace? Est-ce qu'il veut vraiment voir la vérité ou s'il veut rapporter comme un perroquet ce qu'on lui donne comme rapport provenant de l'ONU et de l'IPPC qui a été évidemment créé par l'ONU pour approuver sa fameuse thèse du réchauffement climatique par l'activité humaine? Oublie pas, l'activité humaine est responsable d'une chose, la pollution, pas le réchauffement climatique. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Je suis bien d'accord qu'on a surpollué la planète. C'est pas ça. La surpollution de la planète va nous tuer. C'est pas le réchauffement climatique qui va nous tuer, c'est la pollution si on continue comme ça. Le seul problème, c'est que oui, il faut gérer la pollution absolument. En nous donnant des voitures électriques qu'on nous avait promis il y a 30 ans, qu'on a enlevé du marché, en nous donnant des moteurs électromagnétiques qui ne polluent pas, des moteurs à l'hydrogène, etc. Ça fait longtemps que ces brevets-là existent. Même on pourrait conduire nos voitures sans émission de CO2. Pourquoi ces bidules-là n'ont pas été, si tu veux, renforcées en obligeant la population de dire, écoutez, là, on va s'acheter un bidule, on va les faire ici dans notre pays, ça coûtera pas cher, au lieu de 80, ça va coûter 29,95. Vous en achetez tous un, vous le mettez sur votre voiture, puis voilà, on pourra utiliser encore le pétrole pour un petit bout de temps, mais au moins sans polluer. Rien n'a jamais été fait pour réduire les pollutions de la planète, ni industrielle, ni autre.
Si c'était si important que ça,
oui,
nos élus auraient fait une loi. On ne ferait pas cette espèce de cirque, de cette grosse farce-là. Nos élus auraient simplement dit, c'est trop important, cette pollution-là, là, ce qui est rejeté là par les compagnies, on fait une loi, ça vient d'arrêter. Maintenant, ça ne change plus, ça ne polluera plus. Les voitures, malheureusement, ou elles ne polluent plus, ou ils n'en rentrent plus dans la région. Évidemment qu'un élu ne pourra pas faire ça, il perdrait ses votes, on vit dans la démocratie, puis ça fait longtemps que les gens ont appris qu'ils pouvaient voter pour ceux qui allaient en promettre le plus, même s'ils livraient pas ses promesses, mais
le peuple aurait élu ce type-là, mais la haute finance du pétrole, de l'automobile, la haute finance, les hauts industriels, par ses lobbies, l'auraient tout simplement détruit, soit parce qu'un jour, il a commis quelque chose, il l'aurait détruit, il aurait trouvé une façon.
Exactement.
De le détruire, point.
Ce qui est arrivé à Tesla, finalement, c'est l'histoire de Tesla, peu de choses près.
Et voilà. Donc, s'il n'y a pas de réchauffement climatique puis que j'ai pas les gaz à effet de serre, c'est quoi?
Ah ben ça, c'est une bonne question, parce que finalement, il n'existe pas grand-chose aux côtés du réchauffement climatique aujourd'hui. Hein. C'est le réchauffement par les climatiques, par les gaz à effet de serre, aujourd'hui, n'est pas ce qui est à la source de notre bousculade climatique. Qu'est-ce qui est à la source de ça? Ben, pour comprendre, il faut prendre du recul dans le temps. C'est possible, grâce à l'analyse du climat dans l'histoire, là, comme entre autres les carottes de glace qui proviennent de l'analyse de sites comme Vostok, où l'analyse de ces carottes de glace-là permet de déterminer la température qu'il y a fait en remontant dans l'histoire. En fait, de cette façon-là, il est possible de constater que le climat de la Terre, ce n'est qu'une suite incessante d'oscillations qui atteignent parfois des crêtes ou des creux très importants. Aussi loin qu'il est possible de se rendre dans l'histoire, il est possible de constater ces oscillations-là. Fait qu'avec l'analyse, lorsqu'on analyse ça avec plus de profondeur, il est possible de comprendre que ces oscillations-là se présentent en cycles. Des cycles sont très similaires puis qui reviennent à l'infini sur des grandes périodes. Ça varie de quelques heures, parfois à quelques centaines de milliers d'années. Ils ont un effet parfois qui est très lent, qui va s'imposer sur des grandes périodes, d'autres parfois très courtes. La brutalité de l'orage l'été soudain qui surprend, ou la tempête de neige soudaine et qu'on passe à une période de froid immédiatement. C'est composition là de cycles naturels là, qui se combinent entre eux autres au gré de leurs différentes périodes, ils vont cumuler à l'occasion des niveaux qui sont extrêmement élevés puis qui ont parfois des conséquences géoclimatiques surprenantes, qui en ont eu à tout coup dans l'histoire. Des cycles naturels sont présents, ils se produisent, ils sont visibles dans tous les relevés climatiques. La périodicité des grands cycles, ça nous indique qu'on est actuellement précisément assis à la croisée de ces chemins, de ces grands cycles-là. On est, depuis le dernier siècle, assis sur la fin d'une crête pour laquelle on se dirige, si on se fie à la statistique du climat de l'histoire, pour laquelle on se dirige vers une période beaucoup plus froide. Là où ces variations-là ont toujours été acceptées par la science moderne, le point qui est à débattre dans ça, c'est la vitesse à laquelle ces variations-là peuvent se produire parfois. Parfois, elles sont extrêmement brutales. Un peu de recherche dans les données concernant l'espace qui nous entoure, ça aurait permis de découvrir que la totalité des planètes du système solaire, en plus du Soleil, présentent depuis à peu près un quart de siècle des signes d'activité importante qui reflète un peu celle-là de la Terre. Un peu de recherche dans l'histoire ancienne, ça aurait permis de découvrir que le fonctionnement des cycles et de leurs causes étaient parfaitement connus, puis décrits en détail par des hommes qui étaient respectés dans la plus haute antiquité, des bonhommes comme Platon, comme Anaxagore de Clazomène. C'est un savoir qui était répandu, qui était très utilisé par tout voyageur, les marins de l'époque, parce qu'il permettait de déterminer le climat approchant avec la plus grande des confiances.
Mais là, tu veux dire qu'on n'arrive même pas à prédire la température qui va faire dans plus de 3 jours. Tu sais, je veux dire, ils se trompent continuellement à chaque semaine en utilisant la combinaison des anciens sages, des habitants de la Terre. Ouais. Ils seraient capables de le faire.
N'importe quand.
Ils pourraient nous le prédire même un peu comme l'almanach du peuple.
En fait, tu parles de l'almanach du peuple, puis je veux t'arrêter tout de suite là-dessus. L'almanach du peuple, qui ont parlé à plusieurs reprises d'une formule secrète qui a été prétendument dévoilée et que certains scientifiques se sont accaparés en disant c'est simplement de la statistique. Alors, ils utilisent la pluie, la statistique des journées du 13 mars des années précédentes, par exemple, pour déterminer qu'est-ce qu'il va faire le 13 mars de cette année. Ça, c'était le véhicule scientifique moderne qu'ils ont utilisé pour analyser ce qui était derrière les prédictions de l'almanach. Et les prédictions de la formule, elle est toujours secrète, actuellement, et ces gens-là ne la connaissent pas. Parce que la formule que ces gens-là utilisent pour être capables de prédire le climat et qui est très utilisée, ils en parlent à un cultivateur, il ne jure que par l'almanach. Il a besoin de savoir, lui-là, qu'est-ce qu'il va faire cet été, si les gels cet hiver vont être plus profonds. Ce sont des choses qu'il a besoin de savoir, et grâce à l'almanach, il l'obtient. Donc, il y a des manières de prédire et de savoir ce climat-là. Et pourquoi la formule a été cachée si elle était si efficace que ça? Et ce sont des questions qu'on doit se poser.
Moi, je crois que les formules, c'est basé sur des cycles astroclimatiques, hein, le fameux astroclimat, que c'est les astres qui dirigent beaucoup plus, les astres incluant le soleil, évidemment, qui dirigent beaucoup plus le climat de la Terre que les évaporations d'eau qui sont soudaines, ou les changements brusques de climat qui peuvent évidemment faire apporter des bouleversements assez rapidement, mais l'astroclimat est une chose que les scientifiques aujourd'hui reconnaissent.
C'est pas quelque chose qui a disparu du savoir, hein? Ça a disparu de la connaissance populaire. Ça a constitué au fil des siècles un savoir qui est privilégié, là, qui a été notamment utilisé comme outil de guerre, parce qu'évidemment, mon ennemi est passablement plus vulnérable quand son garde-manger est vide ou quand il est soumis à un bouleversement climatique. Il est plus facile pour moi de le dominer à ce moment-là. Fait qu'à un moment donné, ce savoir-là a été caché, a été occulté. Évidemment à cause de son pouvoir, de sa capacité comme arme, comme outil de guerre, et sa capacité à pouvoir aider certaines avancées guerrières. Fait que la connaissance populaire des cycles qui impliquait la capacité de qui impliquait aussi la capacité de prédire la venue des cycles externes, parce que si tu es capable de prédire la pluie de demain, tu es aussi capable de prédire la très, très grande pluie de dans 3 semaines, par exemple, ça constitue une source d'attraction populaire, puis de bouleversement social à l'approche des perturbations. Ça n'avait rien pour plaire aux dirigeants de l'époque, les espèces de rois dominants de l'époque, là, qui n'étaient pas des dictateurs au sens où est-ce qu'on l'entend nous autres aujourd'hui, mais qui étaient quand même la monarchie de l'époque. Donc ces gens-là, ils ne savaient rien pour leur plaire, parce qu'à partir du moment où que certaines perturbations plus importantes que les autres approchaient, les gens nécessairement arrêtaient et se mettaient à accorder beaucoup d'importance à tout ça et se préparaient, etc. Donc toute l'économie du petit village, de la petite ville, de la cité à l'époque, arrêtait parce que les gens se préparaient vers ça. C'était à l'époque entourant Platon, il y a à peu près 2500 ans que, là, qu'une censure royale a été imposée par une oligarchie. Ça a commencé à s'imposer sur ce savoir-là dans les pays qui ont entouré là, les pays autour de la Méditerranée. Puis suivant la mise en place d'une religion d'État qui coordonnait sur le champ la connaissance puis la pratique populaire de ce savoir-là, c'était l'hérésie, c'est l'hérésie du catholicisme, c'était une hérésie que de la pratique de cette connaissance-là, ça a été harcelé de toutes parts durant l'histoire, puis ça a fini par disparaître de la connaissance populaire. Populaire seulement parce que c'est demeuré à l'usage de certains. Il serait bon que de mentionner que tu t'en parlais tantôt, les almanachs du cultivateur, sous le couvert de la formule secrète, qui étaient capables de déterminer avec précision, sont capables de déterminer avec précision les périodes climatiques à venir. Ne serait-ce bon que de mentionner que dans toutes les cours de l'époque avaient leur astrologue, avaient l'astrologue royal, l'astrologue de la cour, finalement, qu'on n'a jamais trop su qu'est-ce qui servait à faire là, outre prédire les humeurs du roi. C'est ce qu'on croit maintenant. Alors qu'en fait, sa réalité, c'était qu'il était là pour être capable de déterminer vraiment qu'est-ce qui approchait. Faut comprendre qu'une telle science, ça ramène les prophéties mystiques et religieuses concernant le fameux tournant de l'an 2000 au rang de simples prédictions climatiques. pratique à long terme. Puis sous cet angle-là, au vu du climat, ils sont visiblement très efficaces, on pourrait difficilement en douter. Il y en a plusieurs qui ont pointé le doigt sur le tournant de l'an 2000. Alors, il y a divers calendriers dans le monde qui ont été soigneusement établis en fonction d'offrir des repères aux différents cycles. Les fêtes religieuses traditionnelles ont souvent comme objet de conserver en mémoire des dates tournantes de ces cycles-là. Les grandes périodes climatiques les plus rigoureuses, celles qui surviennent aux 400 ans, sont intégrées dans le calendrier grégorien, sous forme d'années bissextiles, qui sont soigneusement disposés aux 400 ans, dont des grands cycles aux 2000 ans. La censure de ce savoir-là à l'époque de la Grèce antique, là, elle s'est pas faite sans heurts. Ça a occasionné des chocs de société importants. Beaucoup comme des bonhommes comme Platon, comme Socrate ou Anaxagore de Tlemosène, ils sont morts sous la condamnation d'un tribunal d'État fantoche qui ont dû s'exiler pour ne pas s'être conformés à la doctrine de l'État, d'avoir poursuivi ces enseignements-là en dépit des interdits de l'oligarchie en place. À un moment de l'histoire qui précède notre ère, les prophéties, les mythes, les religions, puis les autres savoirs qui sont aujourd'hui occultés se confondaient de bien curieuses manières. Déjà dans le siècle précédent Platon, les conséquences de la censure d'État étaient très visibles. Puis déjà, on voyait que le savoir s'effilochait. Platon et ses adeptes le savaient. Ils ont même pris soin de mettre le lecteur en garde à l'effet qu'ils ne font que répéter des bribes de ce savoir très ancien et très important, sans pour autant eux autres même être en mesure de le comprendre, ne faisant que le répéter pour le bénéfice des générations futures. Je vous en donne une mise à jour raisonnable. En Grèce antique, il y a 2500 ans, Timaeus de Platon nous apprend des détails révélateurs au sujet de la réalité des anges et des demi-dieux. Il nous en donne une bonne description particulièrement vivide de ce que sont les demi-dieux, en prenant grand soin de ne pas les nommer. Là, il faut comprendre qu'il vit à l'intérieur d'un état de censure, donc c'est une des raisons pour laquelle il prenait grand soin de ne pas les nommer. Divins, ils appartenaient au ciel, ils influençaient la vie des hommes d'une façon incontournable, incorruptible, sans que leur motivation réelle ne puisse être comprise pour autant. C'était des êtres qui étaient doués de leur vie propre, des sphères mathématiquement parfaites, comme tournées sur un tour, qui avaient d'étranges particularités que de ne se mouvoir que dans deux directions, soit tournées sur elles-mêmes ou vers l'avant dans une grande course qui la ramène toujours à son point d'origine. On aurait tous deviné que c'était les planètes, là. Que les anges ou demi-dieux aient pu être à un moment ou à un autre l'appellation d'une planète, c'est une explication qui constitue en soi une hérésie pour l'Église catholique. L'ensemble des atomes de l'univers, c'est retenu par cinq grandes forces électromagnétiques. C'est ce que Timaeus, il y a 2500 ans, nous explique. Puis il modélise en détail, grâce en utilisant une géométrie élaborée, il modélise en détail ces forces-là dans un texte écrit il y a 2500 ans. Il nous explique que quatre de ces forces-là étaient connues, puis servent à expliquer les raisons derrière les déplacements des anges dans le céleste, donc les déplacements des planètes, etc. Mais une cinquième force, qui était beaucoup plus complexe et insoupçonnée, expliquait, elle, les raisons derrière, on va reconnaître là la mythologie grecque, etc., derrière ces guerres de demi-dieux, les guerres de demi-dieux qui existaient à l'époque et qui nous ont été rapportées là, comme étant la mythologie. Ça a été décrit par Platon comme étant le phénomène qui est à l'origine des catastrophes qui se sont acharnés là, à détruire la civilisation des hommes. Il décrit cette force-là et la présence de cette force-là comme étant la cause derrière les grandes catastrophes que l'homme a eu à subir. Puis ces catastrophes-là ne laissaient que le montagnard et l'inculte pour repartir la civilisation. Cette cinquième force-là, elle se manifestait lorsque deux anges ou des demi-dieux des sphères occupaient une situation précise dans le ciel. Il nous explique que lorsque deux de ces sphères parfaites s'alignent en direction d'une troisième sphère ou d'une troisième planète ou vers la Terre, par exemple, qu'elles expriment dans l'axe de leur alignement une nouvelle force électromagnétique, cette cinquième force-là, qui tirera à elle cette troisième sphère-là. Donc, si cet alignement-là survient lorsque la troisième sphère ou la troisième planète s'éloigne, elle va être ralentie par cette force-là et va s'échauffer. Si au contraire, cet alignement-là survient lorsque la troisième planète se rapproche des deux autres ou de l'alignement, elle va être accélérée, elle va se refroidir. On a tous compris que ces sphères-là sont des planètes du système solaire, puis la troisième sphère qui s'échauffe, qui se refroidit au gré des alignements, c'est la Terre. des planètes, l'importance de la dimension des planètes, la distance, la particularité. Timaeus de Platon termine sur l'intensité du phénomène en expliquant que les directions du ciel, dans lesquelles ces alignements-là, lorsqu'elles se produisent, elles auront un impact déterminant beaucoup plus important que d'autres directions.
Okay.
L'école des sages de Platon, à l'époque, parce que Platon, évidemment, c'était une école des sages, c'était Socrate, c'était l'époque des écoles ouvertes, donc. L'école des sages de Platon a été harcelée par les autorités d'époque. Hein. Suivant la condamnation à mort de Socrate par un tribunal populaire, Platon s'est exilé de peur. Il y a beaucoup d'autres acteurs de cette époque-là qui se sont dispersés. Curieusement, encore aujourd'hui, là, l'idée qu'un tel savoir ait pu être connu à l'époque de Platon, faut comprendre que c'est une hérésie de l'histoire, qu'il puisse exister à quelque part un phénomène, en quelque part, non documenté, non formulé par la science moderne. C'est en plus une hérésie de la science.
Ouais.
Fait que, tout ça fait que ça n'a pratiquement pas de vie ou d'existence propre. Aujourd'hui, c'est l'astrologie. L'astrologie est une bête de cirque. On voit ça dans le journal le matin, ça a l'air tellement ridicule. Ouais. On ne conçoit pas l'importance pour laquelle une telle connaissance ait pu nous suivre durant 2000 ans, en dépit des interdictions de la société. Il y avait des mois que j'essayais de comprendre ce qui peut être la cause des oscillations des cycles là, sur le climat. Là. Puis j'envisageais, puis je permutais là, toutes les possibilités. Ça arrivait à rien de plus que de tourner en rond, là, puis sans avoir vraiment de résultats satisfaisants. Quand je découvre qu'une explication simple a été écrite il y a 2500 ans, puis qui a été lue par tous les passionnés de la science, enfin, tous les passionnés, il y a eu des mouvements pro-platonistes qui ont été développés, des gens qui ne se spécialisaient que dans la lecture des écrits de Platon et de Socrate et de ces textes-là, qui ont été lus par tous les passionnés de la science. En 12 douzaines de lignes de texte, ce gars-là explique d'une façon inusitée la cause des changements climatiques, des cycles, mais pour une cause qui est tout à fait ridicule selon notre conception moderne, l'alignement des planètes ou encore l'astrologie. Les évidences manquent pas. Là. En quelques jours à peine, j'avais réussi à construire un modèle tout à fait fonctionnel qui établissait raisonnablement une correspondance entre les cycles du climat et la position des planètes extérieures, les grosses planètes, les plus importantes. Les autres, c'était facile. Après, c'était les petites variations du climat. Alors, évidemment, quand il survient des alignements utilisant les petites planètes comme Mercure ou comme Vénus, ben ça va avoir parfois des petites conséquences et celles-là vont être la pluie journalière qui survient, par exemple, etc., est occasionné par la ronde incessante des planètes autour de la Terre. En dépit des tabous brandis par tout le monde, ça devenait un incontournable.
Tu veux dire que cette explication, même si elle provient d'un individu respectable comme Platon, par exemple, elle indispose à la fois l'Église, l'histoire de la science et l'astronomie?
Elle indispose tout le monde. En fait, elle n'existe pas, elle n'a pas d'existence propre. La religion, c'est une hérésie que de parler de l'astrologie en religion. Pourtant, quand tu remontes l'histoire de la religion et que tu tombes dans les anciennes représentations à la base même de la construction de la religion catholique, de la religion chrétienne, des autres religions, ce sont tous des représentations astrologiques, tous des représentations astrologiques. La croix, les quatre coins, le calice, l'ostensoir, ce sont tous, l'Église elle-même est un point de croisée climatique, elle a été faite pour représenter un point de croisée climatique. Ça n'a pas de vie propre. Ce que je décris ne peut avoir d'existence propre parce qu'il y a eu des murs qui ont été construits tout le tour. Il n'y a pas de formulation qui parle de cette force-là. En dépit du fait que Platon nous l'explique à 2500 ans, ils n'ont pas pensé à construire des formules. Mais la formule n'a jamais empêché Ford de construire un véhicule automobile puis de faire marcher un moteur. Là, le chien jappe avant que la Lune se lève en l'air. À un moment donné, il va falloir comprendre qu'il y a peut-être une mécanique qui fait que le chien jappe avant que la Lune se lève, là. Alarmés dans une situation climatique, là, une situation climatique comme celle que l'on vit présentement, n'importe quelle société raisonnable en éveil devrait se pencher sur une relation aussi facile et insignifiante que celle-là à valider. J'ai réussi à faire ça en quelques heures à peine. Là. J'ai l'impression de tenir entre mes mains l'enfant du péché, celui-là qui est rejeté de tout le monde, pendant que la caravane promotionnelle des gaz à effet de serre poursuit se lancer là, à une vitesse folle. De toute façon, c'est pareil comme dans l'histoire du chien, c'est celle qui, dans le village, il se mettait à hurler à chaque fois que la lune était pour se lever, mais quelques minutes avant la lune, puis finalement, ils ont été obligés d'en convenir que le chien possédait un don particulier, celui de prédire le lever de la lune, mais lorsqu'ils ont passé au sage du village, puisqu'il était impossible de prédire suivirent le moment où la lune se levait. Les sages du village en ont donc convenu que le chien devait être abattu parce que c'était lui qui
pensait
que la lune allait se lever.
Fait que si le chien n'est pas là, la lune ne se lèvera pas.
La lune ne se lève pas. Fait que c'est un peu ça l'idée derrière, c'est que on sait tout. Je suis le chien dans ça, moi, qui hurle à la lune. On sait tout maintenant que la concordance entre la science moderne, pour la science moderne, c'est impossible. Pour l'histoire moderne, c'est impossible. Pour la religion, c'est impossible. Malgré ça, la correspondance entre les cycles du climat, les aliments de planète de notre système solaire font. Les changements climatiques se produisent à chaque fois. C'est mesurable, reproductible. C'est on ne peut plus scientifique. Et pourtant, aussitôt que les gens comprennent que ces deux planètes qui s'alignent ensemble pour donner ce résultat-là, ils voient dans ça le mot astrologie. Et l'idée, l'hypothèse même, vient d'être enfermée dans une petite boîte qui est totalement tabou pour laquelle la personne cesse de regarder.
Oui, mais c'est pas de la... C'est pas de l'astrologie, c'est la science des astres, le gosse. C'est beaucoup plus de l'astronomie. C'est de la vraie astronomie, c'est scientifique. L'astronomie, c'est une science. L'astrologie est une science aussi qui, malheureusement, s'est perdue en conjoncture.
Ben, c'est notre conception aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a, il y a 1000 ans, ou il y a 1200 ans, l'astrologie était une surspécialisation, comme aujourd'hui la cosmologie, par exemple. Donc, à l'époque... Tu étudiais l'astronomie. À l'époque d'Anaxagore de Tlemazin, tu étudiais l'astronomie et après plusieurs années d'études d'astronomie, éventuellement, tu pouvais passer à la portion climat-astrologie, qui était une sous-spécialisation de l'astronomie, mais qui impliquait au départ une excellente connaissance du système solaire.
C'est pas d'aujourd'hui, de toute façon. Regarde Pythagore et ses disciples.
Oui.
Hein? Les disciples étaient condamnés à mort pour seulement réciter un théorème de Pythagore. Alors qu'aujourd'hui, en huitième année à l'école, on te les martèle dans la tête pour que tu puisses les mémoriser, puis on voit pas l'importance, le génie qu'il y a dans la géométrie, simplement.
Ben, c'est important que tu sois inculte, parce que tant que tu es inculte, tu te questionnes pas sur les raisons pour lesquelles je suis ton supérieur. Je suis ton élite, pour laquelle j'occupe un poste supérieur au tien depuis ma naissance.
Oui.
Hein, étant,
ah oui.
Tu n'auras pas là-dessus si tu es inculte, parce que tu me vois tellement grand, tellement grandiose.
Et les alignements, c'est le mot-clé. Les alignements de planètes, c'est le mot-clé en ce qui concerne le climat aussi. Hein, puis les interactivités humaines, sûrement ces champs électromagnétiques-là peuvent influencer aussi le tempérament, les émotions, les pensées des humains lorsqu'il y a des grands chambardements électromagnétiques. Donc, c'est un tout, c'est le climat, le mental, le psyché humain, la nature, tout ça y passe.
Ben, l'alignement, c'est le mot-clé dans ça. Là. Et la façon dont ça fonctionne, globalement, pour donner une explication simple, là, c'est que les constellations d'étoiles qui entourent le système solaire transmettent une gigantesque quantité d'énergie qui se transmet entre elles. En vertu d'un principe qui était autrefois appelé éther par les anciens, ça provient de quatre sources principales. Selon certaines religions, c'était six, qui avaient six côtés plus importants que les autres. Ces rivières-là d'énergie, de l'énergie ionisée, traversent le système solaire de bord en bord. Lorsqu'un alignement survient ou se produit, tous les aliments ont un impact sur le climat de la Terre lorsqu'ils se produisent vers la Terre. Mais s'ils se produisent en plus en direction de l'une ou l'autre de ces constellations-là, l'effet va être décuplé. Des aliments comme ça, généralement plus puissants, surviennent à peu près aux 60 ans. Ils ont tous été le siège de changements géoclimatiques importants. En plus des périodes de guerre, hein, si on remonte par des tranches de 60 ans, on s'aperçoit qu'on tombe dans des périodes de guerre. Il arrive aussi de façon beaucoup plus rare que ces aliments-là vont comporter plus que trois planètes ou plus planètes ou plusieurs planètes occupant simultanément des positions critiques du zodiac, puis surexcitant le système solaire en projetant des quantités énormes d'énergie à l'intérieur du système solaire. Depuis 20 ans, plusieurs des planètes importantes du système solaire ont graduellement pris position là, devant ces constellations-là, puis nous acheminent des quantités importantes d'énergie acheminent des quantités importantes d'énergie tant sur le Soleil que sur la Terre. Puis ça bouleverse, c'est ça qui bouleverse les géoclimats de la planète. Là. Les tornades, tremblements de terre, ouragans, oranges, volcans, sécheresses, grêles, inondations, c'est tous les principaux indicateurs géoclimatiques de la planète. Ces indicateurs-là ont tous été relativement stables jusqu'à leur édition précédente. Ils se sont tous mis à croître lentement pour atteindre des nouveaux sommets. au tournant des années 80. À partir de ce moment-là, l'activité de l'ensemble des indicateurs géoclimatiques s'est décuplée. Ça a soulevé un intérêt public. C'est à ce moment-là qu'était le phénomène nouveau, inédit en instabilité climatique caractérisé, des mots, des concepts nouveaux, la couche d'ozone, le réchauffement climatique, l'écologie, l'environnement, le smog. C'était tout à fait inconnu il y a à peine un quart de siècle. Il faut se rendre compte de tout ça. Si je t'avais décrit le climat qu'il fait aujourd'hui, il y a un quart de siècle, tu aurais rigolé, tu te serais moqué de moi. En 2000, nouveau tournant, nouveaux ajouts de planètes dans le fourreau d'énergie, les excès climatiques, ça atteint des nouveaux sommets. Jamais vu depuis que l'homme tient compte du climat. Toutes les semaines qui passent, vous défiler des lots de records absolus. Chaleur, froid, ouragan, grêle.
Le soleil aussi, évidemment, est affecté par ces alignements-là. Et on voit l'activité... Donc, on pourrait mesurer l'activité solaire par les aliments et des planètes. Mais là, tu ne parles pas juste des planètes, là, tu parles des constellations.
Oui, oui.
Donc, 4 sont les plus fortes, ben, peut-être jusqu'à 6, mais disons que les 4, on pourrait parler peut-être des 4 planètes, des 4 constellations de la bête de l'Apocalypse.
Oui.
Un visage d'homme pour Aquarius, un visage de
en fait, ça, c'est la portion qui a été cachée, occultée à l'intérieur des religions. C'est les 4 bêtes de l'Apocalypse. Les 4 coins de la croix, qui sont les 4 coins du système solaire, sont ces 4 coins-là. Sont les mêmes 4 coins que l'on retrouve à l'intérieur des religions, des pratiques sacrées autochtones, comme dans le Midwest américain, par exemple, qu'ils ont le carré sacré des Indiens. C'est ce même carré-là qui représente les 4 coins importants. C'est l'aigle qui fait face au lion et le sagittaire d'un côté qui fait face au taureau de l'autre. C'est ces 4 constellations-là qui sont les plus importantes et qui sont représentées partout à travers de toute l'histoire. En fait, dès que l'on connaît l'importance de ces 4 constellations-là ou des 6, il est possible de retrouver des symboles associés à travers une foule de regroupements, les religions, les sectes religieuses, les regroupements occultes comme la franc-maçonnerie, c'est chez ces gens-là. Ce sont des gens qui utilisent à profusion les symboles géoclimat dont nous autres, on ne connaît plus la fonction véritable.
Mais là, en 2004, ça a commencé à augmenter, puis tout récemment, en novembre 2006, il y a un autre nouveau tournant, là,
oui.
Qui, tu sais, c'est comme où il y a une cavalcade géoclimatique là, qui est en train de se produire.
Mais là, tu le sais, en 2004, je t'avais dit, en 2004, on a vécu une crête importante et après ça, ça l'a tombé. Je t'ai annoncé, j'ai annoncé publiquement qu'en 2006, à la fin 2006, ça allait repartir de plus belle, ce bal-là, puis qu'il allait avoir un nouveau tournant, ça allait repartir. Et effectivement, ça allait repartir de plus belle en octobre et novembre. Les tempêtes se sont accrues, les tornades se sont accrues, etc. Il arrive aussi à très rare moment que la totalité des planètes du système solaire se positionne simultanément devant toutes les constellations puissantes. Ça multiplie le produit final, ça, par des facteurs démesurés. Les témoignages de l'histoire qui nous racontent les dévastations conséquentes dans ces périodes de l'histoire-là, ça a été au centre des grandes tribulations humaines dont témoignage dans des livres comme la Bible, entre autres, il y en a beaucoup là, qui donnent ce genre de témoignage-là, qui n'est pas nécessairement un témoignage religieux, c'est ce que je voulais dire par là, mais qui dans beaucoup de cas l'est parce qu'il faut comprendre que c'est vraiment un traumatisme important que peut subir un village, etc. Et ces gens-là conservent la mémoire de tels événements pendant de grandes périodes. Et c'est ce qu'on va vivre en 2007. Ceci va se produire en 2007. En 2007, il y a un accroissement d'énergie qui va se produire parce que les dernières planètes vont aller se positionner en face. Je l'appelle énergie, ça a presque l'air ridicule ou mystique, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment une énergie électrique ionisée qui est transmise entre les planètes à ce moment-là. Et ça, en 2007, les derniers mouvements de planètes vont se produire dans les prochains mois. Ces planètes-là vont aller se positionner devant les constellations, se positionner devant les dernières constellations très importantes qui entourent le système solaire, puis vont décupler encore une fois la quantité d'énergie qui est transmise à l'intérieur du système solaire. Et quand ça c'est fait, l'importante énergie qui est à l'intérieur du système solaire est là, ben à chaque fois qu'il y a un alignement secondaire qui se produit, si cette énergie-là est retransmise, ça a des conséquences très importantes. Donc, on le voit là, sur la Terre, c'est ce qui se produit actuellement là, depuis quelques années. Le mouvement de la planète Jupiter qui s'est dirigé vers le centre galactique a eu des conséquences qu'on a retrouvées en 2006. La quantité des tremblements de terre a été en accroissement depuis la fin de 2006. La quantité des bouleversements climatiques a été en accroissement depuis 2006 encore. Fait que donc, on est reparti là pour une autre vague et la dernière période de tout ça va se produire dans les prochains mois. Là. Tout comme le climat récent là, où les records se renouvellent très rapidement. Là. Les limites de vitesse maximum sont retirées. Ça va être quoi les conséquences de tout ça? C'est difficile à dire. Je suis pas prophète, je suis pas devin, puis je m'amuserai pas à le faire. J'ai trouvé un phénomène qui me permet de mesurer une quantité d'énergie donnée qui frappe la Terre. Le lien entre ça et les conséquences climatiques est évident. Quand ça se produit, il y a des conséquences climatiques. Mais de là à donner le détail d'une conséquence, de qu'est-ce qui va se passer exactement, quel va être le maximum, on tombe vraiment dans l'histoire absolument aberrante, dans laquelle les relevés de l'histoire, les témoignages de l'histoire qui racontent ces choses-là sont extrêmement étonnants. Sur le rapport de comparaison qu'on peut établir, puis c'est assez sommaire, la quantité d'énergie va s'accroître d'une proportion de 10 fois à peu près ce qu'elle est présentement. Donc, les conséquences géoclimatiques devraient s'accroître à peu près dans une même proportion.
10 fois à 100 fois?
De présentement.
Donc, Pierre, pour récapituler, cet alignement-là qui est planétaire et qui est aussi par rapport à des constellations, hein, tu dis que cet alignement-là est de plus en plus progressif. Tu parles de planètes qui prennent place dans cet alignement-là et que cet alignement-là est aussi en direction de cette croix-là qui est les quatre signes de la constellation qui sont les plus puissants au niveau émanation ionique. Donc, tu dis, à cause de tout ça, là, c'est en train de prendre place, puis tu veux nous dire que là, les bouleversements climatiques qu'on a connus depuis 2000 qui augmente, que ça c'est rien, là. Que ça va augmenter là, de 10 à 100 fois plus fort que ce qu'on a vécu. Disons que c'est très poussé, c'était peur, hein? Puis je pourrais même dire que ça n'a pas d'allure.
Oui, c'est vrai. En fait, il y a une précision peut-être qu'il faut apporter. Quand on parle de climat, on parle de géoclimat. J'embarque dans tout ça, c'est vraiment le géoclimat qui affecte la Terre. Et ce n'est pas qui est affecté, ce n'est pas uniquement le climat. Ouais. Lorsque ça prend certaines dimensions, sous certaines conditions très particulières, c'est la portion géologique de la planète qui est atteinte. Et à ce moment-là, on va avoir plus de tremblements de terre. Sous d'autres conditions, ça va être vraiment la portion volcanique qui va se retrouver un peu en vedette, pour laquelle on va avoir, pour une période donnée, un peu plus de volcans qui vont s'extraire ou qui vont se mettre à fumer, alors que dans d'autres périodes, il va en avoir moins. Fait que ces cycles-là sont tous des cycles qui sont gérés, qui sont embarqués sous une bannière que j'appelle le géoclimat. Et ce géoclimat est géré par cette énergie-là. L'ensemble du géoclimat est géré par cette énergie-là. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, ça n'a pas d'aller. C'est toujours notre choix. C'est de 10 à 100 fois ce qui a existé. C'est toujours notre choix. On peut se raconter des romans à l'eau de rose et puis des affaires construites sur des campagnes promotionnelles dans lesquelles notre éducation à consommer va nous donner l'impression de sauver notre vie si on met plus d'argent dans le pot. Et on peut aussi se dire la vérité, c'est notre choix à tout le monde. On peut-tu imaginer des vagues 10 ou même 20 fois ou 30 fois plus fortes? Faut quand même voir que dans les récents événements, beaucoup de bateaux ont subi des dommages dus à des vagues importantes dans la mer. Ça s'est arrivé à plusieurs reprises.
On les oublie, hein, c'est tout ces bouleversements-là, ces accidents climatiques-là. On dit, ben non, ça n'est pas arrivé. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. Quand on en parle, on l'a oublié le lendemain.
Et Dieu merci à Internet, parce que s'il fallait se fier aux médias traditionnels, c'est clair que là, ça sortirait. On aurait beaucoup moins d'informations encore, parce que c'est une information qui est déjà filtrée. Mais grâce à Internet, on on est capable d'aller voir localement dans les journaux régionaux ou locaux, hein, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et Internet nous donne vraiment une vision sur le monde et une capacité d'information qui était même pas imaginable sur, avec les médias traditionnels. Hein. Puis, est-ce qu'on peut imaginer du vent ou des tremblements de terre à 10 ou 100 fois plus fréquents ou plus forts, hein, il y a quelques années à peine, ce que je te disais tantôt, hein, ce qu'on vit aujourd'hui, je t'aurais raconté ce qu'on vit aujourd'hui en termes de climat, il y a quelques années à peine, et t'aurais rigolé. Le gigantisme de tels événements, c'est difficilement imaginable de notre point de vue de petit homme moderne qui n'a pas la mémoire, parce que faut s'avouer entre nous autres que la mémoire des événements géoclimatiques modernes part à peu près des années 1800. Avant ça, il n'existait rien. Hein. Il y a quand même des bribes de l'histoire qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Il y a un bonhomme qui s'appelle Kamono Shome. C'est un prince japonais qui a vécu à Kyoto dans les années 1200. Très intéressant parce que ce sont des histoires qui sont ressorties grâce évidemment à Internet, pour laquelle tu as des gens, tu as un Japonais qui a jugé bon de traduire du japonais ancien au japonais nouveau et qui de là a jugé bon de traduire en anglais cette histoire-là qu'on n'aurait pas eue si Internet n'avait pas existé, qui ne serait jamais parvenue jusqu'à nous autres et dont on n'aurait pas pu aujourd'hui bénéficier de cette intelligence-là qu'un tel texte nous apporte. Il nous raconte que sa région, qui était généralement paisible, avait eu au fil des dernières années à subir d'innombrables catastrophes. Par moments, ça a été la sécheresse qui a occasionné des feux de forêt, d'autres, ça a été les tornades ou les pluies incessantes qui détrempaient tout puis emportaient le sol cultivable pour laisser juste la dévastation et la famine. On retrouve là un peu des événements similaires, curieusement, des événements similaires aujourd'hui. Hein. On parle de cyclones, on parle de sécheresse. Actuellement, ce sont des événements qui ont cours à travers la planète.
Regarde, l'année dernière au Québec, au printemps, le blé d'Inde, toutes les semences avaient été noyées dans une eau, il y avait beaucoup plu. Et puis, ça avait gâché, hein, si on noie les semences avant qu'il se part. Donc, on est très vulnérable au niveau aussi de l'alimentation.
Très vulnérable. On est très vulnérable du côté de l'alimentation. Eh bien, puis juste pour en faire une parenthèse, il faut quand même croire que v'là de ça, jusqu'à il y a 50 ans, les centres d'achat nous étaient tout à fait inconnus. Notre alimentation reposait sur une espèce de voûte qui était située dans le terrain en face. Hein. Tous nos aïeux avaient ça. Les cultivateurs avaient tous une espèce de voûte sous terre dans laquelle ils entreposaient une réserve de nourriture. Il y a de ça pas très longtemps encore, les villages avaient une réserve de nourriture commune, une voûte de nourriture commune, pour laquelle ils entreposaient une réserve commune au cas où que certains problèmes viennent affecter la nourriture. Fait qu'effectivement, aujourd'hui, à un moment où est-ce qu'on repose sur des trucks de transport qui nous livrent ça just in time, hein, à deux jours près, qui vont livrer le centre d'achat, imagine demain matin que la nourriture entre pas, on repose sur le centre d'achat. On en a pour trois jours. Dans trois jours, il ne reste que quelques paquets de confiserie à l'intérieur du centre d'achat, à l'intérieur du supermarché, puis c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de conserve, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien.
Ouais,
mais pour, juste pour... c'est extrêmement important, je trouve.
Mais revenons à ton prince japonais.
Oui. En fait, c'est ça, un des épisodes de son témoignage, c'est vraiment édifiant. Là. Il décrit un épisode de tremblement de terre, là, vraiment d'une grande violence, qui a occasionné des dommages absolument incroyable. Des montagnes qui s'effondrent, puis qui remplissent le lit des rivières puis des vallées. La terre s'ouvre par endroits, puis l'eau se met à jaillir. Les bateaux sont tirés dans toutes les directions. Des vagues de mer qui inondent l'intérieur des terres. Des chevaux qui sont inutilisables parce qu'ils sont incapables de garder leurs pieds au sol. Ouais. Tous les temples, les sanctuaires, les tours de la région de Kyoto, à cette époque-là, ont été endommagés. Hein. Les cendres, puis les poussières, c'était comme de la fumée. Hein. C'était ce que son témoignage rapporte. Là. Il explique que le son des mouvements de la planète, de la Terre elle-même, là, puis l'effondrement des maisons ressemblait au tonnerre, au bruit du tonnerre. J'attire ton attention sur des rapports récents des dernières années pour lesquels d'importants bruits sont entendus sans que l'origine puisse être vraiment identifiée. Des cracks, des booms importants, pour lesquels certains scientifiques ont pointé du doigt le bruit des plaques tectoniques.
Ouais.
sans que ça cause nécessairement de tremblements de terre associés, en tout cas. Bref, les gens se faisaient écraser par leur maison à cette époque-là, toujours dans l'histoire de Kemono-Chome. Les gens se faisaient écraser dans leur maison qui s'effondrait. Puis ceux-là qui réussissaient à s'échapper des maisons, ils devaient faire face à de gigantesques crevasses qui s'ouvraient dans la terre. En fait, le tourment était partout. Le terrible tremblement de terre, ce qu'il nous raconte ce monsieur-là, c'est que le terrible tremblement de terre s'est arrêté après un court temps, mais d'autres qui étaient associés sont poursuivis après coup. Après le grand tremblement de terre, il pouvait y avoir 20 ou même 30 tremblements de terre chaque jour qui passaient, puis lentement, ils se sont estompés. Et ils étaient ressentis même après 3 mois. Alors, on parle vraiment d'une histoire qui est gigantesque, qui est difficile à concevoir, pour laquelle nous n'avons pas de repères modernes. Moins maintenant, parce qu'avec les événements récents, c'est sûr que les gens commencent à avoir une idée de ce que c'est.
Ouais.
Les événements que je décris se sont produits à une période où l'énergie globale du système solaire était débordante, là. Exactement comme la situation dans laquelle nous sommes présentement.
Est-ce que tu peux le voir astronomiquement avec tes logiciels de céleste, d'astre et d'astronomie? Est-ce que tu peux voir quand tu recules à la période de Kyoto, disons 1200, tout ça? Est-ce que tu vois des alignements ou des formations spéciales qui, justement, confirment ça?
C'est exactement la même chose que ce qu'on a présentement. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même croix, parce qu'une croix similaire, une configuration précisément similaire à ce qu'on a, là, ne se reproduira pas avant 20 quelques mille années, ou il ne s'est pas produit depuis quelques 20 000 années, ou à peu près. Une configuration exactement, précisément similaire à celle qu'on a. Par contre, tu peux avoir des configurations qui se rapprochent beaucoup, puis qui vont donner des résultats vraiment semblables, et celle-là en était une. C'était une croix, ce qui est appelé une croix, parce qu'il faut dire que la croix n'origine pas de la religion catholique ou de la religion chrétienne. La croix est bien antérieure à ça. La croix se retrouve à peu près partout, puis identifie vraiment les quatre coins du céleste, donc les quatre constellations très importantes du céleste, et elle se retrouve à l'intérieur d'une multitude de cultures et est très antérieure à l'histoire du Christ, comme elle nous a été racontée dans les 300 questions du Petit Catéchisme. Te souviens-tu du Petit Catéchisme, François-Pierre?
On devrait l'apprendre par cœur. Hein?
Ah oui, il y a 302 questions, je crois. Enfin, je ne suis pas certain,
Mais suite à ça, ça a dû être la famine, la maladie.
Exactement, durant de nombreuses années, hein, parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, tes véhicules de société te permettant d'acheminer la nourriture, les transactions, les gentelés, alors t'as une foule de gens qui sont directement affectés par les événements directs. En fait, la totalité des gens sont affectés par les événements directs. Là, t'as une foule de gens qui sont affectés par des rebondissements de ces événements-là sous forme de famine, parce que là, évidemment, les cadavres descendent des rivières durant ces périodes-là. On a vraiment des histoires d'horreur pour laquelle t'as des cadavres qui se succèdent à la queue leu-leu sur le flot d'une rivière, puis les personnes sont vraiment dans un état de dévastation mentale la plus totale. Hein. C'est sûr que les gens qui réussissent à passer, qui passent au travers des événements singuliers d'origine, comme si c'est un tremblement de terre ou comme si c'est après ça, se heurtent au reste, c'est-à-dire d'avoir leurs proches qui souffrent, d'avoir ce syndrome de la guerre sauvage, genre pour laquelle tu ne veux pas tuer ton ennemi, mais juste le blesser, parce que durant ce temps-là, comme ça, ils sont occupés à le tes ennemis sont occupés à le transporter, comprends-tu? Plutôt que d'avoir un mort l'autre côté, qui font juste enterrer, puis c'est fini. Donc, là, ils sont obligés de s'occuper de leurs blessés. Finalement, mais là, tu vis dans cet environnement-là pour lequel tu as tes gens qui sont blessés partout autour de toi, puis tu souffres beaucoup. Et les moyens globaux dont une société peut disposer, comme par exemple, j'imagine, le gouvernement du Québec ou du Canada dispose de certains moyens visant à protéger leurs citoyens contre des situations extrêmes, mais ces situations extrêmes-là ne sont jamais envisagées. Ces histoires-là n'arrivent, comme l'histoire de Kemono-Chome, nous arrive que par le pur hasard. Il n'y a pas personne qui fait la promotion de ces histoires-là de façon ouverte, au contraire, alors que ça devrait être ouvert. On devrait être au courant que ces choses-là se sont produites dans l'histoire, mais il y a une certaine cachette derrière ça. Ce ne sont pas des choses qui sont découvertes facilement, ouvertement. Je pense qu'on sait tous pourquoi, là, mais...
Donc, l'éco-environnement,
c'est l'écosphère, c'est la biodiversité. Ça, c'est tissé, serré, hein. C'est un entrelac d'une relation de prédateur puis de facilitateur qui est... Ça, c'est le cœur de la chaîne alimentaire sur laquelle nous autres on est assis, là. C'est avec ça qu'on mange. Influencé par les bouleversements du climat, puis se multiplie par l'instabilité qui s'ensuit, ça fragilise toutes les poches de biodiversité, ça permet à des formes de vie qui sont plus opportunistes et inamicales de se développer au profit de l'écosystème qui demeurait, qui demeure en place, puis ça, ça contribue d'autant à l'affaiblir. Hein. Tout, exactement comme un être vivant, là, une communauté biologique de cellules qui travaille en fonction d'un objectif donné. Il possède une certaine tolérance aux agressions par l'environnement. La perte d'une source d'alimentation ou d'une autre, ça possède des effets, mais ils sont guérissables à long, on suppose. Hein, et puis une adaptation est toujours possible. Le système reviendra éventuellement en position d'équilibre lorsque les choses se remettent. Mais lorsque les agressions se multiplient, comme c'est le cas maintenant, il n'est plus possible à ce fragile édifice-là de se rétablir entre chaque coup. Il est affaibli, il s'effondre soudainement, puis il va faire disparaître d'un seul coup des milliers d'espèces en affectant sévèrement la stabilité de l'ensemble de la chaîne alimentaire, permettant... Et ça, c'est des choses qui vont mettre des années à se rétablir. Ce phénomène-là, on le voit actuellement dans la mer, pour laquelle il y a des poches, littéralement des poches d'asphyxie qui existent à certains endroits dans la mer depuis le dernier quart de siècle. Ces poches-là pour lesquelles il n'y a plus aucune vie. C'est un désert sous la mer, ce qui n'avait à peu près jamais été vu. C'est un désert sous la mer pour laquelle les coraux sont morts, pour laquelle il n'y a plus de phytoplancton qui est la nourriture de l'ensemble des formes de vie supérieures, n'existe plus dans certaines poches. Ça se produit dans le golfe du Mexique actuellement, ça se produit dans l'Atlantique. C'est très troublant.
C'est spécial.
Mais même si les choses demeuraient exactement comme elles sont présentement, l'éco-environnement et la production alimentaire, ils n'ont rien de reluisant. Là. Durant le dernier quart de siècle, les sécheresses répétitives ont frappé des grandes régions du monde. Ça a occasionné des nombreux réfugiés climatiques. Puis la faillite d'un nombre encore plus important des petits producteurs agricoles qui étaient incapables de survivre dans cet environnement-là. L'Afrique, les Indes, l'Ouest américain, canadien, de nombreuses autres régions ont de la difficulté aujourd'hui à produire... Des régions qui étaient autrefois qualifiées de réserves mondiales, hein. On sait que l'Ouest canadien était le grenier du monde, oh là là, et il arrive simplement plus aujourd'hui à produire une quote-part de nourriture suffisante pour nourrir ce qu'il nourrissait précédemment.
Mais il y a des grains aussi de l'industrie alimentaire comme Monsanto, Cargill, etc., qui ont déstabilisé des pays au point où ils ne peuvent plus s'alimenter. Exemple, au Brésil, où on cultivait le maniac, on a fait cultiver le maniac en Indonésie, puis au Brésil, on leur fait cultiver du soya qui poussait en Indonésie. En plus, le soya est génétiquement modifié. 60% du soya va pour la production animale.
Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'on attend pour faire la société Beauvais incorporée? Il faut sortir ça de notre vie, c'est effrayant.
Oui, mais au Québec, on a parmi les terres les plus arables sur la... Tu sais, très arables. On peut cultiver beaucoup de choses en dépit du climat. Ça fait 4 siècles qu'on est ici. Et puis, le Québec n'est pas encore capable de soutenir sa population. 5 millions, c'est pas énorme. 6 millions 500 000. C'est à part de ceux qui sont pas enregistrés. Donc, le Québec n'est pas capable de nourrir sa propre population avec l'eau, la terre qu'il a, la terre noire, on pourrait en vendre. On n'a jamais été autonome au niveau nourriture. On s'est toujours arrangé pour que le Québec soit dépendant de l'Ontario, des États-Unis, de l'Espagne.
L'autonomie est assez loin. En François-Pierre, il faut quand même se rappeler dans l'histoire. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très jeune, nécessairement. J'ai du vécu. Il faut quand même se rappeler que j'ai vécu à une époque pour laquelle ton patron, tu devais lui parler dans la langue anglaise. Qu'importe à peu près l'entreprise sur laquelle tu travaillais au Québec, là. Le patron était un anglophone. Hein?
Donc, il y a eu beaucoup de contrôle au niveau de l'alimentation.
Bien sûr.
Fait que, qui arrivait, qui avait justement une grève de camions, un cataclysme qui fait que les routes sont impraticables, ni les trains. On n'a aucune réserve. Dans le monde, la réserve mondiale de grains dans le monde, tu sais, avant, c'était pour 21 jours, 40 jours. Là, on est rendu à une semaine. Mais ça, c'est pour la planète entière. Et puis, en plus, on est en train de créer des grosses réserves à un kilomètre sous la neige en Alaska, de toutes les graines qu'on peut ramasser sur la Terre, de tout ce qui pousse. On est en train de faire des réserves comme un peu l'Arche de Noé. Les riches, l'oligarchie est en train d'utiliser les milliards qu'on va leur verser pour combattre le réchauffement climatique. Quelle farce! Et vont se protéger, se construire des abris, eux. Et d'ailleurs, c'est là que tout l'argent va, c'est dans des projets noirs secrets de construction souterraine ou ailleurs.
Compte tenu du fait que mon pain aujourd'hui me nécessite 5 fois plus de travail comme ouvrier qu'il en nécessitait un ouvrier des années 1900,
oui.
Payé,
oui.
Faut que l'argent aille en quelque part ailleurs que dans mes poches, ça, t'as parfaitement raison.
Énormément de projets secrets, de projets noirs. D'ailleurs, l'oligarchie, qu'elle soit industrielle, bancaire, financière, militaire ou autre, est en train justement de préparer son grand plan dans lequel, probablement, ils le savent, 2/3, si c'est pas plus, de la planète vont disparaître. Eux croient sincèrement que le gène humain est défectueux et lorsqu'on regarde la télévision, on peut quasiment les approuver.
Non, on a le meilleur exemple.
Mais oui ou non, le gène défectueux, c'est sûr, après 50 ans de chimie incontrôlée, de pollution, de toxiques de toutes sortes, alimentaires et autres, c'est incroyable qu'on ait pu survivre à ça.
Et là, tu marques un point qui est important, là. Par sa linéarité, très linéaire, le peu pas de diversification, la production alimentaire industrielle là, est très vulnérable aux maladies comme elle est présentement. On regarde mondialement, on est vulnérable sur plein d'aspects. Là. La diminution des pêches commerciales qui a été, supposément qui était due à la surpêche, mais curieusement, on l'a dit, le phytoplancton, les crustacés, même le phytoplancton, même ce qu'on ne mange pas disparaît aussi. Prenons des maladies comme la vache folle, le charbon, la grippe aviaire, c'est des exemples d'événements dont l'apparition, ça grève la production alimentaire mondiale. Là. De la plupart des pays, en tout cas, puis ça amène un affaiblissement tout le monde du garde-manger mondial. Je pense que plus que jamais, la production alimentaire mondiale est sous respirateur artificiel, là, puis est rendue suffisante uniquement parce qu'elle est alimentée à grands coups de pesticides, puis d'OGM, puis d'engrais. Ah. C'est une fragilité qui est accentuée par le fait que l'ensemble de la nourriture consommée par les populations des pays industrialisés du monde est aux mains des réseaux de distribution qui possèdent aucune réserve. C'est du just-in-time, hein, le fameux just-in-time qui a été établi dans à peu près toutes les compagnies pour lesquelles l'approvisionnement de la petite pièce servant à construire la grosse pièce servant à la livraison du client arrive dans les jours précédents. Donc, personne n'a à conserver d'inventaire. En cas de rupture d'approvisionnement, hein, les rayons qui doivent être regarnis à tous les 2 jours, ça nous rend extrêmement vulnérables. Les centres d'achat, les fameux supermarchés. Il faut réaliser que c'est ça. C'est un phénomène nouveau dans l'histoire de l'homme. Il y a 50 ans à peine, tout le monde possédait le caveau. Et puis là, devant la peau de chagrin qui est devenue notre société, toujours sous la pression de la performance financière, parce que tout l'ensemble des problèmes provient de là, la performance financière pour laquelle il faut livrer, pour finir par livrer des chiffres, par finir par livrer des beaux objectifs.
Avec profit.
Par finir par livrer des beaux profits dans la poche de 30 millions de petits investisseurs de pièces, de petites pièces, et quelques gigantesques investisseurs de fortune. Et puis, bon, évidemment, on est obligé de vivre avec ces gens-là. Faut croire que c'est comme ça que le système fonctionne. On accepte ça, en tout le moins. Et puis, de toute façon, il y a fort à parier qu'un coup dur, ça placera encore le petit peuple au cœur d'une grande tourmente puis d'une grande misère. Sous cet aspect-là, la fameuse caravane promotionnelle du réchauffement climatique, là, occasionnée par les gaz à effet de serre, là, c'est un arbre qui cache la forêt puis ça frise la fraude sociale.
C'est un grand scam, une grande imposture. En anglais, ils disent le swindle. Swindle, le plus grand arnaque qu'il n'y a pas. Et puis, de toute façon, les gens, c'est incroyable, le pouvoir et la popularité soudaine de M. Al Gore, qui est membre de ce gouvernement mondial secret, si tu veux, et qui sert les intérêts et de la reine de l'Angleterre, des États-Unis et de Blair et de leur et de tous ceux, les Français, l'Italie, l'Allemagne et tous les pays, mais surtout l'ONU, qui vont bénéficier de cette imposture, de cette arnaque. Et nous, on va payer très cher. Et même au niveau des sacrifices, on va nous faire accroire toutes sortes de trucs. Les gens deviennent un peu maniaques là-dessus. Les jeunes ont embarqué. Ça va être très difficile de ralentir, juste de ralentir. Je ne parle pas d'arrêter, je parle de ralentir la cabale du réchauffement climatique.
C'est vraiment quelque chose qui a été mis en mode balistique, là. C'est actuellement, il n'y a plus personne qui a le contrôle là-dessus. C'est vraiment une mode. C'est les pantalons larges, c'est la mini-jupe. C'est assez fait. Tout le monde embarque dans ça et tout le monde est séduit par l'image. Ils ont quelque chose pour résoudre l'espèce de patente épeurante qu'on n'a pas le droit d'appeler fin du monde ou, tu sais, crise épouvantable, dramatique. On n'a pas le droit de prononcer ces mots-là. Qu'il faut dire, c'est un réchauffement climatique qui éventuellement va amener une remontée des eaux. Effectivement, c'est un cirque, c'est une véritable farce et ça il n'arrêtera pas. Hein. Ça l'arrêtera vraiment pas. L'objectif de ces gens-là, c'est de pouvoir ramener de la profitabilité à l'intérieur du système, mais ça là, en fait, ce n'est pas le bien-être individuel.
Mais ils le savent que ça va arriver, puis eux vont être protégés avec leur petite élite. D'ailleurs, ils font de la sélectivité ou de la sélection depuis quand même un bon bout de temps.
Bon, ils ont leur gang, là.
Mais si l'avenue d'un tel événement aussi gigantesque que tu dis, qui avait été prédit, il aurait été prédit par les anciennes sociétés de la Terre. Hein?
Ouais.
Bon, ils l'auraient écrit quelque part pour qu'on le sache, non? Eux le savaient.
Ça a été fait, là. Il y a des gens qui l'ont dit, puis l'écrit. Il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi. Mais pour les mêmes raisons qui ont influencé la disparition de tout ce qui entoure cette connaissance-là, ce savoir-là au niveau de l'astroclimat, là, ça semble avoir continué à jouer un rôle très important là, dans la suite de l'histoire. Là,
ouais. On parle de 2007, je veux dire, est-ce qu'il pointe vers 2007, vers ça?
Oui.
Je sais qu'il y a Nostradamus qui a mentionné ça, mais...
Oui.
Donc, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Pointe vers, si tu veux, 2007, 2008, je sais pas. C'est quoi qui se passe, là?
Ben, en fait, là, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau, les gens ont toujours beaucoup de confusion, hein, au niveau des êtres. Dans ça, il faut penser que les cours royales, avec plusieurs astrologues, là, Nostradamus en est un, puis il l'a dit, il identifie la période de mauvais climat. Il le dit pas comme ça, mais débutant en 1999, une pointe géoclimatique peu commune en 2007. Il l'indique pas comme ça. C'est codé. Le grand âge, l'année 7 proche du grand âge, millième. Personne l'a cru. Personne le croit. En fait, c'est facile de le trouver ridicule par Nostradamus quand tu as fait la lecture. Mais quand tu comprends ce à quoi ce bonhomme-là a dû, un bonhomme d'une grande intelligence, faut le dire, ce à quoi ce bonhomme-là a dû se heurter pour réussir à nous faire parvenir ce document-là, qui, en fait, faut l'avouer, a l'air ridicule à prime abord, là. Ben, en fait, faut se le dire, c'est un bonhomme qui a misé beaucoup pour arriver à faire ça. Comme personne, je pense que les prophéties, personne ne l'a cru, mais personne ne pense non plus que les prophéties puissent être vraies, là, en dépit du fait qu'elles pointent toutes vers l'an 2000. Il faut se le dire, les prophéties, il n'y a pas de prophétie qui pointait tant que ça vers l'an 1000, puis il n'y en a pas eu tant que ça. Hein. C'est vers l'an 2000 que ça pointe. Il y a eu plein de choses qui ont été dites face à des dramas qui approchent, mais la majorité de ces prophéties-là n'étaient pas nécessairement mauvaises. Ils indiquaient effectivement des périodes de climat mauvais qui se sont réellement produites. Sauf qu'il y avait un manque de connaissances dans la façon dont l'ensemble du mécanisme fonctionne. Mais il y a des gens qui le possédaient. Le calendrier Mayol dit identifier la période.
Ben, 2012.
Ah, ben oui, l'ensemble des périodes climatiques de la Terre à venir pour le prochain 5000 ans, ils identifiaient tous, identifiaient bien sûr la dernière grande crise identifiée par le calendrier qui était 2012, mais ils identifiaient tous le calendrier grégorien, on l'a dit tout à l'heure, là, avec les années bissextiles. Beaucoup de mythes et de religions anciennes ont conservé les paramètres nécessaires à identifier la période dans laquelle on vit présentement comme étant la source de grands changements. Paramètres comme les oiseaux qui tombent en vol, comme le double bourgeonnement des arbres, comme... Et beaucoup de sociétés ont conservé à l'intérieur de leur culture, de leur mythologie, des éléments qui sont des éléments d'ouverture, donc des éléments qui ne se produisent qu'au moment où est-ce que ces grandes vagues climatiques-là sont à la veille de survenir.
Comme le chien qui aboie à la lune.
Exactement, comme le chien qui aboie à la lune et qui a été tué par les sages du village en passant.
Il y a un document secret au Pentagone qui est sorti.
Au grand public, oui.
Une belle fuite.
Oui. En 2004, là, par ce qui était une hérésie à l'époque, il proposait un scénario. C'est un document secret du Pentagone coulé au grand public par deux journalistes de l'Observer. Ce document-là qui était vraiment, il proposait des scénarios catastrophiques au niveau du climat qui prenaient place à la planète dès l'an 2007. Alors que les prévisions les plus pessimistes, on sait, n'indiquaient pas les conséquences avant quelques siècles encore, puisque le réchauffement était dû aux gaz à effet de serre. Et dans mon livre, ce que je révèle, une découverte que j'ai faite durant mes recherches autour de la baie de New York, puis ayant comme position centrale l'île sur laquelle est installée la Statue de la Liberté, qui est l'île Liberty. Il existe autour de l'île Liberty une série d'îles et de parcs qui possèdent la particularité d'avoir été clés dans la guerre qui opposait Washington et aux Anglais. Puis beaucoup de ces aménagements-là, architecturaux d'origine, subsistent aujourd'hui sur ces terres-là. J'ai découvert que chacun de ces parcs qui est aujourd'hui, qui fait partie des parcs séculaires de la ville, là, chacun de ces parcs identifie des caractéristiques puis la position d'une constellation ou d'une planète entourant la Terre. Puis l'ensemble de ces représentations-là en font un monument là, gigantesque qui a 200 kilomètres carrés, qui est situé là, sur tous les terrains, non pas les terrains, mais les grands sites de visite qui bordent la grande baie de New York. Là, ça mesure 200 kilomètres carrés. Ça démontre une vue précise de notre système solaire en juillet 2007. Par la suite, j'ai débusqué un autre monument similaire. En fait, ce qu'il faut dire, ça démontre une vue précise de notre système solaire en juillet 2007 avec un événement. Cet événement-là, c'est une colombe. On connaît la signification, pour nous autres, on la connaît d'un point de vue peut-être plus catholique qu'autre chose, la signification de la colombe dans l'histoire qui a été symbolisée par la descente du Saint-Esprit dans la religion catholique. C'est un moment particulier.
Symbolise aussi la destruction, c'est-à-dire l'épuration de la race, tout comme la colombe tue son petit qui est malade. C'est-à-dire la colombe, c'est beau.
Et l'éveil aussi, hein, parce que la colombe était l'éveil. La descente du Saint-Esprit, c'était l'éveil à une considération, à un saut de paradigme, si on veut, une considération plus grande, supérieure, une motivation de base.
Comme un jet provenant de l'espace.
Pardon?
Comme un jet d'énergie. Qui descendait, la colombe représentait le Saint-Esprit dans le sens que, bon, il y avait comme des courants d'énergie qui...
Mais effectivement, les piliers de lumière,
et
ça,
voilà.
C'est ce qui est... En fait, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, c'est ce qui est prévu là, par le monument de Washington, là, la portion des piliers de lumière, là, qui théoriquement devrait être dans les prochains mois, aussi apparent que ça puisse paraître. Là. Mais ça, c'est sur l'autre monument que j'ai découvert, toujours de Washington, toujours réalisé sous la tutelle de George Washington, là, mais cette fois-là, c'est à Washington D.C., c'est le parcours du National Mall devant la Maison Blanche et le Capitole. Ce parcours-là, qui mesure quelques kilomètres, là, c'est un gigantesque calendrier qui identifie les moments clés du développement des États-Unis et qui se termine à la fontaine du Capitole en l'an 2007, et pour laquelle chaque décade décamètres. Donc, chaque 10 mètres représente un année depuis la découverte du continent nord-américain, là, dans le fond 1492, jusqu'à 2007, en avant de la fontaine. Et la partie supérieure du National Mall, c'est la pyramide franc-maçonnique, celle qui comporte les 13 niveaux, qu'on retrouve sur le billet d'un dollar, qui est représentée à cet endroit-là, sur la ligne de l'année 1776 de ce parcours-là, qui se retrouve à être de plus directement sur les bornes qui ont été installées par Washington à l'origine et directement sur la ligne qui relie la Maison-Blanche au monument de Thomas Jefferson situé 1776 mètres plus loin. Tout ça nous indique que, toujours dans le concept de l'identification de la date, tout ça nous indique que l'an 2007, là, ce qui est la fontaine du Capitole, la fontaine du Capitole elle-même possède toute une symbolique qui est à décrire en fonction des événements, puisque dans le fond, l'objet de ça a été de décrire symboliquement les événements, un peu de la même façon que Nostradamus le fait dans la mesure de ses moyens, toujours en comprenant qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas que ça paraisse au grand public. Fait que l'an 2007, c'est une importante étape qui est écrite dans beaucoup de monuments à caractère sacré, non seulement là, mais à beaucoup d'endroits.
Ce qui est comique, c'est que depuis l'apparition de ton livre, on n'entendait jamais parler de 2007. Depuis que ton livre est sorti sur le marché, c'est comme, wow, 2007, c'est
2007 spécial. Est partout.
Oui, il y a même aussi le fameux site qui annonce des catastrophes financières en 2007, toutes sortes de choses. C'est comme, à quelque part, sachant que les bouleversements s'en viennent, ceux qui le servent, disons les Illuminati, pour généraliser le terme, sont en train justement de fomenter tous ces effondrements-là pour arriver à leur but du gouvernement mondial.
Sous cet angle-là...
Avec ceux qui vont survivre à cet événement-là.
Ouais, sous cet angle-là, je suis un emmerdeur social de première.
Oui, ça, c'est sûr, parce qu'à quelque part... tu dénonces ou tu dévoiles leur plan, et en même temps, c'est épeurant. C'est épeurant ce que tu dis là. C'est sûr que moi, j'ai reçu, on a reçu ici à la maison le mois dernier, et tout le monde au Canada, on a reçu un petit papier qui disait « Faites-vous des provisions pour 3 jours, et puis préparez-vous à n'importe quoi. » Sur les préparations, il disait les choses importantes à conserver dans son pack-sac. Son permis de conduire, une pièce d'identité ou un passeport, sa carte de crédit. Hey, non, mais faut-tu être con? Il me semble de me voir sur le coin de la rue en train de mâcher ma carte de crédit parce qu'il n'y a aucun ordinateur satellite qui fonctionne. C'est con.
En fait, si tu n'as pas 5$ dans tes poches et qu'un événement comme ça se produit... faut-tu t'attendre de crever, là?
Donc, faut garder de la monnaie.
Un minimum de monnaie en espèces. Ce genre d'événement-là induit dans la haute atmosphère des quantités d'électricité très importantes qui occasionnent des événements dont l'histoire n'a pas gardé beaucoup de traces et qui sont assez apocalyptiques, mais qui ont trait à des orages électriques de dimension beaucoup plus grande que ce qu'on connaît ou ce que la science peut nous rapporter. Puis ces orages électriques, puis une intensité d'électricité dans l'atmosphère très grande au point où il faut s'attendre que dans la façon dont a été constitué tout notre réseau électrique, on est d'une très grande fragilité. Et de la façon dont a été constitué notre économie dans les dernières années, pour laquelle il y a des générations entières de gens qui n'ont pas de monnaie dans leur poche, qui ne vivent que sur une carte de dépit ou une carte de crédit.
La monnaie.
Alors que ces gens-là n'ont pas accès dans la mesure où est-ce que ce système-là de télécommunication extrêmement élaboré qui repose sur des milliers de poteaux de téléphone, de fils téléphoniques, d'ordinateurs situés aux quatre coins du monde, ne fonctionne plus, ben là, ta carte, là, pour acheter ton pot de nourriture à bébé, là, tu peux toujours rêver.
Donc, si c'est connu dans les hautes sphères, est-ce qu'on pourrait envisager l'idée que ça nous soit caché pour notre propre bien?
Ça serait réconfortant, hein?
Ben, pour pas que le monde tombe en panique.
Ouais, c'est vrai que ce serait réconfortant de penser ça, mais c'est pas le cas.
Mais ça pourrait être... Imagine-toi, demain, là, le gouvernement dit, OK, là, il va y avoir des catastrophes climatiques et géoclimatique, tellurique, profiter de la vie, qui retournerait à l'ouvrage? Là, tout le monde se précipiterait dans les banques, dirait, je veux tirer mon argent, on vivrait un peu ce qu'ils ont vécu en Argentine.
Ah ouais, ce serait un peu effrayant, puis dans le fond, le seul qui serait gagnant dans ça serait le petit.
Oui, parce que lui, il pourrait, ça serait important d'avoir des outils manuels. Tu sais, un vilebrequin là, qui tourne avec un pommeau là, que tu tiens.
Oui. Peut-être qu'on n'aurait pas tous laissé mourir nos vieux, ceux qui ont de l'expérience dans des corps de métier qui aujourd'hui sont difficilement reproductibles, comme fondre du métal. Là.
Les agriculteurs qui possèdent des connaissances extraordinaires dans la culture.
Mais ça peut être réconfortant, mais c'est pas le cas. Là. C'est une histoire qui a quelque chose de vicieux. Là. Je ne serais pas sans mentionner que l'utilisation de ça comme outil et arme de guerre, statistiquement, ça ment pas dans l'histoire. Ça. La correspondance entre les guerres de l'histoire et ça, là, ça ment pas. On a qu'à regarder, de toute façon, encore une fois, on a qu'à regarder les nouvelles, hein, on le voit toutes là, pour constater l'escalade guerrière, puis le fait que M. Bush a dans le derrière de la tête d'aller pogner le Liban ou le Venezuela ou la Corée, on dirait qu'en le vase, un chien qui est enragé, qui cherche rien que ça. Hein.
Ouais.
Mais les politiciens font résonner le bruit du tambour militaire de plus en plus fort. Hein. On a vu ça avec Harper au Canada. Là. Ça fait longtemps que les usines d'armement n'avaient pas ronflé comme ça, à cette vitesse-là. Les usines d'armement, si ça signifie des morts à un bout du canon, ça signifie de l'argent à l'autre bout. Et ça, c'est le bout le plus important. Ce n'est pas le bout pour lequel du monde meurt. Le bout le plus important du canon, du fusil, c'est le bout pour lequel il rapporte de l'argent au monde qu'il fabrique. Hein? Le document du secret du Pentagone, c'est une pièce importante. Il faut réaliser que ces gens-là ne parlaient pas de l'an 2200 ou de l'an 2100. Ils adressaient des conséquences à très court délai, là, à un moment où il n'y a rien dans la science populaire qui nous permet de croire à une fatalité qui est aussi rapprochée. J'ai bien dit dans la science populaire. Qu'est-ce que la science populaire? C'est la science du peuple. C'est la science qui n'a pas la censure. Parce qu'il existe toute une portion de la science pour laquelle nous n'avons pas accès, nous autres, le petit peuple, celui qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école ou la chance de l'étudier. Il y a toute une portion de la science qui est régie par les gouvernements, par le militaire, par le secret des armes, par les stratégies, à laquelle nous n'avons pas accès, puis nous ne pouvons pas tenir compte dans notre évaluation moderne du monde. Hein. Mais il n'y a rien dans la science populaire qui permette de croire qu'une fatalité comme ça allait être aussi rapprochée. Il faut en plus tenir compte que la majorité des grands symboles de la société, là, croix, pentacle, les blasons, les drapeaux, les couronnes, prennent toute leur origine sur ce savoir-là qui est occulté des populations. Toutes! Ils prennent toute leur origine sur ce savoir-là qui a été occulté des populations. L'idée que certains utilisent ces symboles-là, aussi importants, sans en connaître la signification réelle, ça n'a pas aucun sens. Ça a l'air du coffre-fort qu'on a racheté l'attelé. Puis quel coffre-fort en plus, hein? Puisque dans le fond, ce coffre-fort-là représente la carte du Joker, celle qu'on peut sortir à tout moment. Hein? Comprends bien que si je suis un individu ratoureux et que je possède une information privilégiée, comme par exemple, une importante grêle va dévaster ta récolte de blé à la fin de l'été, je vais te la prêter, ton argent. D'autant plus que je sais aussi que je vais posséder ta terre d'ici peu. Le lendemain de la grêle, tu seras plus en mesure de me payer tes traites. Tu comprends? Si je veux faire ça pour un individu, je peux le faire pour une région, je peux le faire pour un pays, je peux le faire même pour contrôler mon propre peuple. C'est ce que les Romains avaient appris. Ils avaient appris à contrôler leur peuple en utilisant ça, en utilisant la famine occasionnée par ces bouleversements climatiques-là à laquelle ils voyaient l'avenir. Ils pouvaient protéger leur élite. Comme beaucoup de groupes de population ont été directement contrôlés durant toutes ces périodes de climat-là, débridées, il n'est pas exclu que ça se soit produit. C'est ce qui s'est passé à la guerre du Vietnam sur la piste de Ho Chi Minh alors que les Américains attendaient la pluie violente. Pas la pluie de la mousson, le temps juste avant. Quand la pluie ne s'est pas produite, ils l'ont, semble-t-il, créée en utilisant des moyens technologiques tels que ARP ou tels que les déversements ou chimiques dans les nuages, mais la caravane du réchauffement climatique, la caravane promotionnelle du réchauffement climatique par les gaz à effet de serre, les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. Hein? L'atmosphère est beaucoup plus sereine, tout le monde, il est gentil, il est vert, c'est cool d'être vert. Ces problèmes-là n'existent pas. Il n'y a rien qu'à ajouter du bidou pour que le climat s'améliore. Ah, c'est ça la philosophie du réchauffement par les gaz à effet de serre, pour laquelle on améliore, semble-t-il, du coup la pollution, mais personne ne parle réellement ou ne fait réellement de cause à part appelée pollution, celle que tu faisais tout à l'heure, pourtant, qui est très raisonnable de faire. Personne ne l'a fait, cette cause à part-là. Et automatiquement, pollution égale réchauffement, égale péché de l'homme, égale problématique, égale si je mets de l'argent, je suis un consommateur, donc je suis en droit, en mettant l'argent qu'il faut, de réclamer un résultat. C'est ce qu'on nous a habitués. Mais là, c'est plus drôle parce qu'il y a du monde qui meurt, puis les choses s'améliorent pas. Puis pas mal bientôt, beaucoup plus risque d'y passer. Hein. C'est pas certain que ce soit bien le temps de la campagne de promotion en provenant d'une troupe de vendeurs qui vont déchirer leur chemise en me jurant qu'eux autres, ils sont au courant pour ce qui va se passer dans 10, puis dans 15 ans, puis dans 20 ans, alors que finalement, les prédictions climatiques s'avéraient à peu près à peine correctes au bout de 2-3 jours, à venir jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Ouais, mais tout ça, là, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? En sens que, qu'est-ce qui va se passer de différent en 2007 par rapport à 2005 ou 2004?
Ben, on le sait, depuis 20 ans, le climat, c'est rien de moins que l'autobus sans chauffeur qui est lancé à toute allure. S'il est possible de croire que l'autobus va s'arrêter lui-même sur l'accotement, là, ça ressemble de plus en plus à un vœu pieux, puis ça trouvera pas d'écho. Actuellement, les bouleversements, ça survient de partout. Il y a la grêle, la sécheresse, les orages, coulées de boue, et c'est vraiment de façon intense, c'est démesuré. Curieusement, les médias, ils rendent pas grâce à la réalité des changements climatiques. Il faut parcourir, je le disais tout à l'heure, là, les nouvelles de chaque pays ou de chaque continent quasiment pour être en mesure de faire un bilan global adéquat. Et puis le bilan, il est déjà très mauvais. C'est avant 98, c'était une chose rare. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une volée de nouveaux records établis. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il n'y ait à travers la planète des multiples dévastations puis des milliers de réfugiés du climat.
C'est grave comment ils nous passent ça avec du beau miel puis qu'on commence à s'habituer à ces changements-là. Là, c'est comme et puis plus on s'habitue, ben plus on vient coupable parce que évidemment tout ça c'est à cause de nous.
Ben oui, à travers quelques publicités de voyages dans le sud à prix réduit là. Ouais, dans le fond, c'est tellement dans les médias, c'est impressionnant. Hein? Puis les bouleversements de l'écosystème est conséquent là, avec ces changements-là, là, les animaux, les poissons, là, la prétendue surpêche en mer, qui curieusement, ça donne-tu pas à japper juste avant que la lune se lève, puisque dans le fond, on parle du dernier quart de siècle, encore une fois. Hein? Les plantes qui ont un comportement très différent commencent à en subir les conséquences. Les cultivateurs commencent à avoir des difficultés. Ils le disent eux-mêmes, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Même les germes affectent de façon différente et disproportionnée nosocomiales. Qui avait entendu parler de ça jusqu'à temps que le jeune français Depardieu, soit pris de cette maladie? Personne. Je connaissais même pas le mot. Aujourd'hui, tout le monde le connaît. Ça sort à tous les 3 jours dans les nouvelles. Les maladies nosocomiales, maladies que tu vas attraper dans les hôpitaux. Et curieusement, les maladies qu'on entend, jamais personne n'allait penser qu'on allait attraper des maladies dans les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a plusieurs maladies que tu peux attraper dans les hôpitaux.
Mais ils sont en train de créer des bactéries, des virus, dont la grippe aviaire et le sida et un tas de je nommerai pas les bolocs, tout ça, la liste est très longue. Et là, on nous arrive justement avec ces maladies nosocomiales, une tuberculose qui résiste à tout antibiotique. Ça vient du laboratoire humain. Évidemment, il y a la nature aussi qui s'en mêle, je sais pas moi, avec la fonte des neiges, et il y a sûrement des bactéries, des virus ou quoi que ce soit vieux de 1,5 milliard d'années ou peut-être 500 millions.
On le voit dans les lacs du Québec avec cette espèce de nouvelle mousse là qui pousse un peu partout dans les lacs, une algue qui va bouffer les filtres naturels qui vont aller impacter les grands lacs. Attends, Bernard, je me suis fourré. François-Pierre.
Moi, je dis que ça a été planifié.
À part ça.
Hein?
OK.
Tu veux qu'on reparte ça?
Ah ouais. OK. Ben, on peut rien continuer, si tu veux, là.
Oh oui, c'est correct.
On peut rien qu'on reparte. sortir ce coin-là puis continuer.
Oui. Ce qui arrive, c'est que moi, je dis que ces algues bleues-là, dont tu fais mention, ça provient des bateaux, des hors-bas, les yachts, comme on dit, qui viennent des États-Unis, qui se promènent dans le bout de Plattsburgh, que ça vient des lacs des États-Unis. Ils viennent ici avec leur moteur, avec leur bateau. Peut-être que c'est ensemencé par les chemtrails. Peut-être que ça vient de on ne sait
d'où. Je voudrais peut-être apporter ton attention sur un point particulier.
Oui, vas-y.
Et c'est l'explication officielle que par exemple, entre autres, la moule zébrée avait été accrochée après un bâton quelque part qui lui était venu livrer de la cargaison, entre autres au Canada, et que cette moule zébrée-là était tombée, s'était reproduite, puis que là, avait peuplé l'ensemble des bassins. On comprend que le vecteur de contamination dans ce cas-là a été le navire possible. Mais il faut quand même comprendre que la moule zébrée a trouvé des conditions de vie adéquates là, pour vivre. Et que ces conditions de vie-là étaient aussi à l'intérieur du dernier quart de siècle. Ces changements-là nous affectent les différentes formes de vie qui sont des formes de vie qui sont qui vont plus être qui vont être moins intéressantes en fait pour nous autres les humains et qui sont là des formes de vie plus prédatrices. Ces différentes formes de vie-là, depuis maintenant 25 ans, il y en a plusieurs, que ce soit d'un niveau bactéries, des champignons, des nouveaux types d'arbres qu'on ne voyait pas avant. Ce sont des choses, des changements que maintenant on a. Depuis 20 ans, le climat, c'est rien de moins qu'un autobus sans chauffeur là, qui est lancé à toute allure. Là. S'il est possible de croire que ça va s'arrêter lui-même sur le cotement, ça ressemble de plus en plus à un vœu pieux. Là. Actuellement, les bouleversements, ça survient de partout. La grêle, on l'a dit tantôt, les orages, les coulées de boue.
Non, allez, on reprend ça, mon gars.
Je suis fourré, là?
On est rendu, là. Oui, tu t'es fourré, mais c'est pas grave, je vais couper juste quand t'as dit ça, là. OK. Fait que là, on recommence. Là, moi, je vais te rembarquer la simple poursuite des événements ou encore un seul événement important.
Attends, mais je sais plus ce que t'as. Attends un peu. Je suis fourré, là.
OK. De le bouleversement de l'écosystème est conséquent avec ces changements. Les animaux, les poissons, les plantes ont des comportements différents et commencent à subir les conséquences. Même les germes affectent de façon différente.
Oui. OK, de façon disproportionnée.
C'est à partir de là qu'on a commencé à faire de la blib, OK?
Oui, OK.
Fait que là, moi, je peux revenir avec...
Mais je peux embarquer tout de suite avec la simple poursuite, là.
OK, vas-y.
Avec la simple poursuite des événements, pour encore un seul événement important risque de rayer de la carte d'importantes zones de production alimentaire qui ajouteront au problème de façon soudaine. L'augmentation de cette énergie-là, elle va rendre chaque changement de climat beaucoup plus brutal, beaucoup plus prononcé. On va passer du froid au chaud, à la pluie, à la grêle, à la neige, beaucoup plus rapidement et subitement que ça ne se faisait auparavant. D'ailleurs, on l'a vu à Noël cette année, alors que je t'avais... Personne n'aurait pu dire, qui d'autre fou que moi aurait pu dire en décembre ou en novembre que nous dirigions vers un hiver très froid. Et ça n'a pas manqué au moment où est-ce que la température était anormalement chaude, donc avant la période de Noël.
Oui.
Dès que nous avons passé le cap de Noël, donc le cap du solstice, qui est très important dans toutes la thèse que j'ai construite.
Des changements de 20 degrés Celsius par jour, comme on a eu la semaine dernière, tu sais, où il fait plus 12 degrés Celsius, puis ça tombe à moins 12 le lendemain.
Et c'est mondial. Et ce n'est pas que dans la température, c'est aussi dans le vent. Dans le vent, on voit par exemple des endroits pour lesquels tu as des bourrasques de vent importants de 200-300 km/h qui vont s'abattre subitement sur un quartier pendant quelques minutes. Et au bout de quelques minutes, ça laisse une zone totalement dévastée pour laquelle il n'y a plus de vent. Le vent est parti, il n'y a plus aucun vent, et pourtant, tu as des toits de maisons qui ont été arrachés, des maisons qui ont été détruites. On a vu ça encore récemment. On a vu ça avec la grêle récemment en Australie, pour laquelle un village complet a été dévasté par des grêlons de la grosseur de la grosseur du poing. Le village en entier a été dévasté. Les inondations, c'est la même chose. Fait que ces énergies-là, tout ça va être en croissance. Les événements vont être encore plus importants, plus fréquents qu'auparavant. Tout ça va être en croissance pour atteindre un point culminant dans les prochains mois. Donc, on parle entre la période, je dirais, de juin, juillet, jusqu'à la période de décembre. Et c'est à ce moment-là que les événements vont être disproportionnés pour atteindre des 10 à 100 fois ce que nous vivons présentement. Là. Cette énergie-là va occasionner beaucoup d'autres phénomènes aussi, comme les aurores boréales, d'autres phénomènes lumineux du même genre. C'est les précurseurs des moments géoclimatiques intenses, donc des conditions géoclimatiques intenses. Ça s'est produit en 2004. Lorsque cette lumière-là est visible, il est possible de voir à ce moment-là des effets parfois dans la Lune. La Lune devrait toujours être observée avec soin régulièrement. Son comportement, son apparence, sa couleur sont tous des indications des perturbations qui approchent ou même parfois passées pour quelqu'un qui sait bien en faire l'observation. C'est un excellent indicateur de tout ce qui approche, puisque la Lune étant reliée dans un système orbital autour de la Terre, donc étant reliée dans un système avec la Terre, va subir les effets de ces énergies-là en premier. Donc, les vieux savaient tous ça. Aujourd'hui, la science moderne met un haut là sur ces événements-là, disant non, la Lune n'est jamais plus grosse. Et on nous sort une espèce de théorie du club des sceptiques pour laquelle, quand la Lune est plus grosse, c'est uniquement une impression, c'est un effet d'optique parce que tu la compares avec le ras du sol. Alors que ce n'est pas ça du tout. La Lune change de dimension, elle change de grosseur.
Est-ce que ça s'approche ou s'éloigne de la Terre?
Absolument. C'est assez facile pour quelqu'un qui observe de près, qui prend des notes, de pouvoir mesurer ce phénomène-là. Et parfois, la Lune devient vraiment démesurée, devient vraiment très grosse parce que cette énergie-là l'a poussée contre la Terre. Elle se rapproche de beaucoup. Donc, elle déborde un peu du cadre de son orbite et nous apparaît, nous autres, beaucoup plus proches. Et d'autres fois, elle va être beaucoup plus loin. Donc, soit les dimensions anormales de la Lune, les positions anormales de la Lune, parce que parfois, lorsqu'on compare avec un logiciel astronomique d'astronomie, il est possible de voir que la Lune n'occupe pas la place exacte qu'elle devrait occuper. Il y a une raison à ça. À un moment donné, il faut questionner ce point-là. Et à l'intérieur de l'astroclimat, il est possible de découvrir les raisons qui sous-tendent le pourquoi que la Lune n'est pas exactement à sa place. Ce ne sont pas des gros changements, ce ne sont pas des changements dramatiques, ce sont des indicateurs intéressants, tout comme la couleur, par exemple. Donc, la Lune va venir parfois très rougeâtre. Lorsqu'elle vient rougeâtre, c'est parce qu'elle force, elle va à l'encontre de cette énergie-là, donc elle force dans cette énergie-là. Et puisque cette énergie-là, qui est conséquemment à un alignement, donc, de planètes qui bougent, cet alignement-là va donc balayer pendant une courte durée de temps un espace à l'intérieur du système solaire, parfois va accrocher successivement, va donner un coup dans le soleil, va accrocher le soleil, et là on va voir un impact au niveau de l'index scopé et des différents index qui nous permettent d'analyser la luminosité solaire. C'est là qu'on va voir des jets, par exemple, en provenance du solaire. C'est au moment où ces alignements-là frappent le soleil, il est possible de voir les explosions solaires et les jets qui sont conséquents à ces alignements-là lorsqu'elles frappent. Et le même alignement qui va continuer, qui va poursuivre son chemin, va par la suite, par exemple, aller frapper la Terre. Et là, on va voir des conséquences climatiques. Fait que cette énergie-là va occasionner toute cette série de perturbations-là. Des crêtes importantes de tremblements de terre sont survenues déjà aux alentours de la fin janvier et jusqu'à la mi-février. Et il faut dire qu'en partant des prochains mois, au niveau tremblement de terre, ça devrait être assez critique, puisque les circonstances particulières conduisent de cette énergie-là, conduisant à la portion géoclimatique qui, elle, et le tremblement de terre, sont réunies. Il n'est pas possible vraiment de dire quelles vont être les conséquences. Elles devraient être très importantes. Il m'est pas possible de dire ce qu'elles seront en finale, mais il faut tenir compte que toutes les bonnes conditions sont réunies pour arriver à des bons résultats sous cet aspect-là. 2008-2009, les éléments vont se résorber lentement, vont laisser un environnement dévasté. Les conséquences écologiques vont nous rendre totalement esclaves, dépendants des prix du marché. Les prix du marché, là, c'est pas de la rigolade, là. Des événements qui se sont produits similaires dans le passé, en quelques jours, le prix du pain a explosé de 2500%.
Oui, mais t'as rendu compte, le chaos social, la pauvreté, la famine, oulala, ça risque de devenir mauvais.
Ça va pleurer. Puis là, ça va être abominable. Tant pour la nourriture, pour toutes les formes d'énergie, là. La nourriture, c'est une forme d'énergie, il ne faut pas se leurrer, là, parce que c'est comme ça que c'est qualifié maintenant. Hein. C'est une forme d'énergie qui sert à alimenter un moteur humain dans leur esprit d'éleveur. Nous ne sommes que du bétail.
Mais les industries, tout va être fermé, il n'y aura plus d'employés, tout le monde va être malade ou mort ou je sais pas trop.
Ou il va te charger, ou tu vas être obligé de donner un petit dessous de terre pour être capable d'obtenir ce que tu vas avoir. C'est évident que ce serait une situation extrêmement dommageable. Dis simplement, il est naïf de croire aujourd'hui que les choses vont s'arranger. Ne pas être préparé adéquatement laisse très peu de chances de passer à travers, si j'en crois, la lecture de ces gens-là, et si on est capable de faire une lecture adéquate de la situation actuelle des choses. Un endroit sécuritaire, un bon plan, de la nourriture, de l'eau, l'essentiel, ça peut faire la différence en cas de coup dur. Et les gens doivent, les auditeurs, ceux qui écoutent maintenant, doivent réaliser ça, que l'eau, ça va bien, là, parce que la source d'eau qui nous alimente, qui alimente notre eau tous les jours, elle n'est pas contaminée avec rien. Elle est bonne, elle est pure, elle est bonne à boire. Mais demain matin, c'est cette chose-là qui peut changer. Et cette chose-là, juste cet élément-là, de ne pas pouvoir avoir à ton évier une eau consommable peut faire la différence dans ta vie dans la prochaine semaine et dans le prochain mois. Et que dire maintenant de la nourriture? Et que dire maintenant des gens qui vont être partis au travail si une situation, un vent fou comme celui que j'ai parlé tout à l'heure, ou un tremblement de terre comme celui que j'ai parlé tout à l'heure, survienne? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on se rencontre? Où est-ce qu'on se réunit? Quelle place que je vais te chercher si les rues ne fonctionnent plus? Qu'est-ce qu'on pense des viaducs qui s'écrasent tout seuls? Il n'y a même pas de tremblement de terre, là. On regarde au Québec, là, ils en font une folerie, là, hein? Les viaducs tombent tout seuls. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a des tremblements de terre? Le béton, c'est pas nouveau. On nous l'a dit il y a 25 ans. Tu le sais, dans le document que j'ai traduit, qui est les nouveaux barbares, ils en parlent il y a 25 ans, l'élite interne, de savoir que le béton était de mauvaise qualité et que ça allait nécessairement diriger vers ça. Ben, c'est ça qu'on vit présentement, là. On vit dans un environnement qui risque fort de s'émietter. Une peau de chagrin.
À quelque part, au lieu de dépenser des milliards à essayer de combattre le réchauffement climatique, on devrait dépenser ces milliards-là à s'adapter à la situation qui est assez flagrante de plus en plus, surtout si on considère la vitesse à laquelle les glaciers fondent, pas à cause de l'activité humaine malheureusement, mais ils fondent pareil, et dans ce cycle-là de fonte, qui n'est pas la première fois que c'est arrivé, évidemment, il y a les côtes, il y a un tas de gens qui devraient avoir justement un plan d'action pour justement réchapper ou prévenir, ou mais il n'y a rien.
Et si tu veux savoir de quelle façon ton gouvernement va t'aider en cas de coup dur, tu n'as qu'à prendre l'exemple sur ce qui s'est passé dans le cas de Katrina aux États-Unis.
C'est exactement ça.
Là, l'exemple idéal, un mouvement incroyable, une organisation, la FEMA, c'est une organisation incroyable qui possède des moyens les plus extraordinaires, qui a été paralysée par 12 grains de sable. Insignifiant, qui a fait que ça n'a rien livré, puis il y a du monde qui sont morts, puis il y a beaucoup de monde qui sont morts, et que les doigts se sont pointés vers du petit monde, des infirmières qui étaient prises avec 25 vieillards dans une maison de pension qui a été complètement oubliée. Alors, c'est ça qu'il faut garder comme exemple. Dans ces situations-là, il y a deux personnes, il y a deux types de gens sur lesquels tu peux compter. Un, c'est toi-même. Puis si t'es pas préparé, tu passeras pas au travers. Souvenons-nous de la fable de la cigale et de la fourmi, hein. Tu passeras pas au travers si t'es pas préparé. Et deux, t'as besoin de tes proches, t'as besoin de ta famille. Oublie le gouvernement, oublie tes droits de consommateur, oublie tes droits de citoyen, là. Dans ces situations-là, on ne parle plus de droits, on parle de survie. Et dans le mode survie, tu ne peux compter que sur toi et sur tes proches immédiats.
Ou ton voisin, ça risque d'être ton voisin qui te sort du pétrin, comme c'est arrivé dans le verglas. Il y avait des gens qui avaient même pas de chandelle, d'autres pas d'allumettes, il y avait rien, tu sais.
C'est ton voisin qui va te sauver la vie. Ce ne sont pas des étrangers, c'est vraiment ton voisin dans ces situations-là qui va t'aider, qui va te sauver la vie. Parce que pour lui, t'es un être humain, il te connaît, il est proche de toi, t'es un être humain. Mais pour l'autre qui est l'élite en haut, pour l'autre qui est au courant, enfin, il y en a qui sont au courant de ça maintenant, on le sait, mais puis pour ceux qui sont au courant, François Pierre, tu n'as aucun intérêt dans l'équation, tu n'es que du bétail. On s'en fout que tu passes au travers ou que tu passes pas. En fait, c'est à se demander, même si certains ne regardaient pas le résultat de Katrina, les conséquences de Katrina, avec un sourire imprimé dans le visage, tellement c'était ridicule à un moment donné. Moi-même, qui n'ai aucune expérience dans ce genre de domaine-là de survie, je suis persuadé que j'aurais mieux fait, mais
Katrina, il y a un hélicoptère qui filmait des agents, si tu veux, de l'armée, une faction militaire installée, tu sais, de la dynamite. L'avion a été abattu. Et puis, évidemment, un de ces remparts-là qui maintenait l'eau dans le quartier pauvre, qui était en dessous du niveau de la mer, évidemment, a flanché. Et il y en a qui ont entendu des explosions. C'est pas très clair, Katrina.
C'est loin d'être clair.
Mais le pire dans tout ça, c'est combien de milliards a été versé pour Katrina? Quelle est la reconstruction qui s'est faite? Il y a encore des Noirs dans leur gâteau là qui attendent. Ils ont balayé, oui, ils ont nettoyé les rues, mais il n'y a pas de reconstruction qui s'est faite.
Voyons donc, la moitié de l'argent qu'a envoyé via la Croix-Rouge à Banda Haché dort encore dans les banques.
5 milliards, Banda Haché, c'est ça. Ils ont dépensé 1,5 milliard pour nettoyer et faire place à la construction de grands hôtels, des grands édifices sur le bord de la mer, là où il y avait des...
C'est une vraie farce, sacrement. Ils veulent leur construire des écoles en disant ce n'est pas le temps de faire ça, ces gens-là souffraient, avaient de la peine, c'était le temps de les aider. D'ailleurs, notre argent a été émotivement envoyé dans le but des dépanner au moment où ils souffraient, puis ils étaient dans la misère, pas 10 ans après pour reconstruire une école. Ils n'en ont rien à foutre de ça. Notre argent qu'on a envoyé pour acheter des petits Chinois il y a de ça 20 ans, on n'a jamais entendu parler par la suite, n'est-ce pas?
Non, mais il y a une autre chose aussi, combien d'intérêts a touché l'ONU? En plaçant 5 milliards dans X Banque mondiale, comprends? Imagine-toi les intérêts que l'ONU touche depuis que ces 5 milliards-là dorment. Disons qu'ils en ont dépensé 1 milliard 500 000, bon, 500 millions. Et c'est une farce. Les gens, j'ai reçu des courriels de Québécois qui sont allés là parce qu'ils avaient de la famille. Et puis, il paraît que c'est tout simplement nettoyé. Il n'y a aucune reconstruction. Ils ont reconstruit très peu de maisons. Seulement ceux qui faisaient partie de l'élite du village, puis c'est tout. Il y a des villages dévastés qui sont pas reconstruits.
On se serait pas attendu à ce que la Croix-Rouge, pour laquelle on a été de si généreux donateurs, et je ne parle que du Québec parce que je connais les chiffres du Québec, nous avons été de généreux donateurs. Est-ce que ça n'aurait pas été déjà une bonne chose que la Croix-Rouge passe dans les médias après pour dire, et voici ce que j'ai fait avec vos pièces.
Oui, il n'y a pas grand-chose. Ils l'ont fait.
Ça s'est jamais fait. Ni Téléthon, ni là. Il n'y a jamais personne qui l'a fait. Pourquoi? Parce que quand tu les as donné tes pièces, c'est fini, mon vieux. T'es fait. Tu t'es fait avoir. Maximum de plumes avec le minimum de cris du poulet. On t'a eu. Fait.
Oui. Hey, Pierre, pendant qu'il nous reste encore quelques secondes, le plan que tu montres par rapport justement à cet alignement-là et tout ça, bon, dans les structures qui entourent la Statue de la Liberté, c'est quand même assez spécial.
Oui.
Dans le livre, ne figure pas justement cet appendice qu'on aurait pu mettre, mais qui avait encore beaucoup de photos et qu'on n'avait pas le temps de faire,
oui,
et qu'on a mis sur le site de conspiration.cc et sur le tien,
oui,
en appendice au livre, qui est aussi la fameuse découverte que tu as fait à Washington, dans les documents de Washington, et la fameuse fontaine.
Oui.
Et là, tu as quand même découvert aussi une autre série de calculs. Mais à un moment donné aussi, tu m'avais parlé que cette connaissance-là, qui était dans les mains des sectes ou sociétés secrètes, dont quelques hauts placés, très haut placé dans la franc-maçonnerie et autres domaines, si tu veux.
Oh, des gens qui occupent les hautes sphères, là, c'est clair.
Oui, je te parle pas, là, tu sais, des petits degrés, là, qui sont des chevaliers pour cirer les bottes et frotter les temples et mettre...
C'est ça, pas les petits nous autres, là.
Non. Par contre, tu m'avais dit que tu avais fait une découverte qu'on va sûrement annoncer ou démontrer à tout le monde par le biais de l'Internet. C'est justement que dans la ville de Paris, dans la ville de Québec, dans plusieurs villes, tu retrouves ces mêmes alignements ou structures placées dans des ordres ou des géométries spéciales qui ont encore là aussi une relation avec, si tu veux, le zodiaque, et dont les édifices sont dans des endroits très, très précis, les alignements de rues. Et ça, on le sait, évidemment, on sait que les cathédrales ont été construites sur des, si tu veux, des rivières géotelluriques, énergétiques, pour toutes sortes de raisons qu'on n'élaborera pas ici, mais tu as fait une découverte vraiment extraordinaire. Ce que tu me disais, disons, tu me disais qu'il y avait trois différents paliers, exemple, ou de façon, dans la géométrie, si tu veux, de Québec et de Paris. Oui. Est-ce que tu peux nous...
Oui, bien sûr. Écoute, c'est absolument incroyable, cette affaire-là. Ce que j'ai découvert dans Washington, dans Washington plus que dans New York, puisque New York est un autre genre de représentation. Mais je me suis rendu compte que l'ensemble des villes, à tout le moins les grandes villes ou les grandes capitales du monde, pas juste de la région ouest, du monde, ont été construites et ont, dans leur centre, dans ce que moi j'ai appelé les fondations. Exactement comme c'est dans le cas de Washington, le National Mall, tu as à l'intérieur d'à peu près de l'ensemble des villes, de toutes celles que j'ai faites actuellement en ont, Québec en a, Paris en a, pour laquelle j'ai des collaborateurs absolument exceptionnels là-bas qui m'ont aidé, ils m'ont apporté une quantité d'informations incroyables concernant Paris. Il y en a une douzaine de ces sites-là. Chacun de ces sites-là possède une structure de mesure dans laquelle les unités de mesure sont du temps. Et si on part d'une pierre de fondation principale que ces gens-là placent au moment de la fondation de la ville, il existe un parcours dans toutes les villes, un parcours de monuments urbains, ou ce que j'ai appelé des monuments urbains. Un monument urbain, c'est pas un toit de maison, c'est pas n'importe quoi, là. Un monument urbain, c'est un monument très particulier, lourd d'histoire, quelque chose de chargé, qui a une signification historique, qui a, c'est ça un monument urbain, c'est une maison particulière, qui a aussi, qui est lourdement chargée, là, au niveau historique, et qui possède une signification précise dans l'histoire. Donc, les monuments urbains-là, grands terrains, les espèces de grands terrains de vie, comme à Québec, c'est les plaines d'Abraham, par exemple, avec le parc des champs de bataille. Bon, ces grands terrains-là sont la base même de ce calendrier temporel-là qui existe dans toutes les villes. Et toutes les villes, de leur point de fondation, peu importe où est situé le point de fondation dans une ville, de leur point de fondation jusqu'à la mesure finale, possède toute une démarcation de l'an 2007. Maintenant, ce que j'ai découvert par la suite, évidemment, dans toutes ces villes-là, tu as une nette symbolique astrologique. Hein? Washington, tu te souviens que j'ai présenté que derrière la ville de Washington, il y a une espèce de représentation hideuse qui mesure 7 kilomètres sur 7 kilomètres, qui est une espèce d'épouvantail construit à même les fondations. Puis là, tu vois ça visiblement en utilisant les photos satellites. Là, tu te souviens d'avoir vu ça?
Oui.
Construit là, pour laquelle à 10 kilomètres du sol, tu vois clairement un épouvantail qui tient dans une main une espèce de serpent et qui lance des projectiles à un fœtus qui tient dans... Quelque chose d'hideux, une représentation que tu ne t'attends pas de voir, et pour laquelle, au moment où j'ai présenté cette découverte-là, nous n'avions absolument, et je l'ai mentionné, aucune idée de ce que c'était que cette représentation-là.
Oui.
Mais par la suite, j'ai découvert pourquoi. Parce que j'ai découvert cette représentation-là grâce à un attribut particulier qui est l'œil du serpent, qui est un œil très bien fait, très bien dessiné, puis c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir que, voyons donc, c'est une tête, voyons donc, c'est un serpent, voyons donc, c'est un serpent qui est tenu par une main, par un bonhomme, etc. Alors, quand j'ai découvert cet œil-là, qui était très bien dessiné, ça a piqué ma curiosité. Et c'est par après que j'ai découvert que cette représentation-là, comme beaucoup de développement des parcs urbains qui ont été, des monuments urbains qui ont été faits par la suite, ont été réalisés par les francs-maçons et ont été faits sur une couronne de symboles astrologiques dessinés autour des villes. Dans Paris, tu as ça à quelques endroits, des grandes représentations astrologiques pour lesquelles, par exemple, tu as les bonhommes le bonhomme du Sagittaire qui est dessiné et qui mesure comme 300 mètres de long dans la forêt, vraiment avec du relief pour laquelle des pierres ont été aménagées. Et tu as une espèce de bandeau autour de la ville de Washington. Tu as une espèce de bandeau qui mesure environ 50 000 pieds, ou je traduis en mètres, une dizaine de milliers de mètres de rayon, en prenant comme centre le Capitole. Et ce bandeau-là et la représentation de tous les signes du zodiaque, de tous les symboles du zodiaque. Caché, parce que les développements de psyché, c'est ce qui est le plus étonnant et troublant de ça, c'est que l'ensemble des développements domiciliaires qui ont été réalisés par la suite, et des parcs de baseball, et des stades de baseball, puis de soccer, ont été réalisés principalement sur ces représentations zodiacales-là, comme si l'objectif premier était de les cacher. Et effectivement, quand tu te mets à fouiller, là, tu te rends compte qu'autour de cette arborescence de temps-là, qui est la démonstration d'un calendrier qui existe à Québec, qui existe à Paris, à 7-8 endroits. À Québec, il y a 3 endroits pour lesquels je l'ai trouvé. À Paris, je dirais qu'il y a une douzaine d'endroits pour lesquels il existe. J'en ai trouvé à Perth, en Australie. J'en ai trouvé partout. Cette représentation-là de temps est entourée d'un maillage qui était à l'origine, pour les vieilles villes, à tout le moins comme Québec, constitué d'un maillage pour lequel tu retrouvais un clocher ou une église ou un bâtiment à vocation religieuse à toutes les X centaines de mètres, comme par exemple à toutes les 1 km ou 2 km. Tu retrouves cette église. Un maillage assez régulier, assez constant. Et là, tu vois le développement de la ville, parce qu'évidemment, un développement de ville, c'est toujours concentré. Quand la portion urbaine se construit autour de la ville, et quand c'est trop débordant d'un côté, ça a tendance à aller se construire par l'autre côté, ça finit toujours par faire quelque chose d'assez rond, finalement, qui tend à être rond. Alors, quand le développement s'est poursuivi, à un moment donné, comme si on avait sorti du monde des églises, cette espèce de maillage-là, toujours à des mêmes distances aussi régulières, se poursuit, mais maintenant il se poursuit avec des centres, des parcs d'enfants ou des parcs de baseball. Dans l'Amérique du Nord, la majorité de ces parcs-là sont des parcs de baseball pour lesquels, lorsque tu les regardes de 10 000 mètres de haut, un parc de baseball, c'est le sigle des francs-maçons.
Oui, c'est vrai.
Fait que là, tu te ramasses, mon ami, avec un Amérique du Nord qui est étampé à tous les 3 kilomètres du symbole des francs-maçons dans un maillage régulier et constant qui prend origine autour de ce monument-là qui t'offre, lui, une mesure dans le temps, non seulement de ce qui est passé de l'histoire puis des grands mouvements socio-climatiques ayant eu lieu à l'intérieur du territoire, parce que là, tu le vois bien dans le cas de Washington, c'est vraiment le langage des Templiers qui était utilisé pour décrire les phases de climat. Et là, on embarque dans la période de croisée. J'appellerais 2007 les nouvelles croisées. Parce que les nouvelles croisades, parce que nous sommes vraiment à une époque pour laquelle nous allons avoir une série de croisades, mais non pas les croisades dans le sens qu'elles ont été faites, mais dans ce qui a donné source aux croisades, c'est-à-dire les problèmes climatiques importants. Et c'est ce que l'on vit présentement. En fait, juste pour poursuivre vite la question des fondations de villes, ces fondations de villes-là et le monument pointant l'an 2007, toujours un monument très particulier, ces fondations de villes-là sont réalisées dépendamment de leur ancienneté, parfois en pied, parfois en mètre, parfois en verge, toujours des mesures qui sont un peu contre-nature, donc on le voit à Washington puis New York, c'est en mètre, les Américains, les mètres, ils connaissent pas ça, c'est une mesure européenne, tu comprends? En Europe, quand je vais voir en France, la majorité des sites sont réalisés en verge, puis en pied, qui est une très vieille mesure française et partiellement le pied britannique, donc c'est british, tu comprends? J'en retrouve aussi qui sont en mesure, les anciennes mesures romaines. En fait, la portion centrale de France est en ancienne mesure romaine. C'est, on retrouve des mesures qui ne sont pas généralement utilisées dans la région pour laquelle on retrouve ces mesures-là. Et ces mesures-là servent à identifier le métrage ou la mesurement d'un site dont la mesurement est très important, là, parce qu'on sait ce que j'ai dit tantôt, le décamètre dans le cas de Washington, c'est vrai à Québec. À Québec, c'est des pieds. Il y en a 3. Il y en a un qui est en verge, un en pied, un en mètre. En France, tu en retrouves en verge, en mètre, parfois en pied. Le métrage est très important. Donc, si tu n'as pas l'unité de mesure, tu peux pas mesurer ça. J'ai découvert ça parce que aujourd'hui encore, on avait à travers Internet accès à toutes les cartes satellites, chose qui n'était pas possible via les médias traditionnels. Et là, c'est cette espèce de fondation de ville-là pour laquelle on ne peut douter de la précision des mesures et du chiffre 2007 qui se retrouve à peu près partout dans ces mesurements-là, qui est un point très important de ces mesures-là, on ne peut en douter. Ce qui est le plus troublant de tout ça, c'est le futur, parce que ces monuments-là ne décrivent pas un historique socio-climatique uniquement du passé, mais offrent une prédiction dans le futur, dans le sens que des monuments ont aussi été établis sur des points précis de croisée climatique du futur. Et ces monuments-là, mais là, on vient de changer complètement la nature des monuments. Alors qu'on passait dans l'histoire, dans le passé, de monuments qui étaient des îlots de verdure. Hein, dans le centre de Paris, on sait que c'est très fréquent, t'as les champs de mars, t'en as plein. Paris est plein de ça, des îlots de verdure. Chacun de ces îlots de verdure-là est extrêmement important puisque c'était le centre du monument de ville et le fait qu'ils soient entourés de verdure était quelque chose qui était constant dans l'histoire. Jusqu'en 2007. En 2007, ces îlots de verdure-là, dans les monuments de ville, n'existent plus, ils disparaissent totalement. C'est comme si on tombait dans un monde d'usines. C'est un peu comme le monde métropole. Tu te souviens du Métropolis, le film, là?
Oui, il n'y a pas beaucoup de verdure dans ce film-là.
On a l'impression qu'on tombe vraiment dans ce monde-là, pour lequel il y a des monuments qui sont franchement impressionnants par leur espèce d'allure moderne déglinglandée qui a à voir avec une cave où le film Les Douze Singes là, qui vivent tous dans le fond de la terre dans une espèce de ramassis de téléviseurs, de vieux téléviseurs. Je ne sais pas comment décrire ça. Bref.
Mais de quelle façon, Pierre, tu dis la déver. Que c'est les endroits verdâtres ont été sont enlevés. Peux-tu me donner un exemple? Je veux dire les lieux de verdure, tout ça. C'est sûr qu'ils sont en train d'aménager les anciens les anciennes reliques des religieuses en condominium ou les anciens.
Ok, je te donne un scoop, ok?
C'est comique de voir les centres historiques qui sont en train de virer en condo.
Bien sûr. Je te donne un scoop.
Oui.
À Québec.
Oui.
De la pierre de fondation centrale, lorsqu'on arrive à 2007, on est immédiatement de l'autre côté du Parlement de Québec, 2007 pieds. On arrive immédiatement de l'autre côté du Parlement de Québec. Mais le Parlement de Québec, là, c'est pas un bâtiment anodin, hein. C'est une copie intégrale du Palais du Louvre. Lorsque tu le regardes des airs, là, la forme, c'est carré, c'est une copie intégrale du Palais du Louvre. Non seulement le Parlement de Québec, mais la devanture, le nouvel aménagement qui va servir à mettre une fontaine au centre de la route qui passe devant, cette route-là et l'aménagement qui est fait là, c'est une copie intégrale de l'aménagement qui existe en avant du Louvre. Lorsque tu passes 2007 pieds au travers du Parlement, et que tu arrives de l'autre côté du Parlement, tu arrives sur ce que moi j'ai appelé le monument urbain 2007. Ce monument-là urbain indique précisément la location 2007 pieds. Lorsque tu t'en vas là, tu arrives au sol, tu as une espèce de médaillon de ciment encastré qui mesure 6 ou 8 pieds. Je pourrais d'ailleurs t'acheminer la photo. Si les gens désirent le voir, on pourra le mettre sur ton site. Mmh. Qui mesure 6 ou 8 pieds de circonférence, qui est dans un ciment différent, puis pour laquelle il y a deux fleurs de lys opposées avec une ligne blanche au centre.
Ouais.
Mais là, on est au kilométrage 2007. D'accord? On est au pied 2007, là. On est immédiatement à la sortie du Parlement de Québec, de l'autre côté, là. C'est le pied 2007 qui est là. On est à 2007 pieds des fondations d'origine de la ville de Québec.
Okay.
Lorsque tu continues dans le temps, tu tombes dans la rue, parce que de l'autre côté du Parlement, lorsque tu te diriges vers le complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je sais que tu as beaucoup d'auditeurs internationaux qui ne comprendront pas de ces détails-là, mais tu es dans la rue. Il n'y a rien en avant là, du Parlement. Là, dans l'année 2008, 2009, 2010, il n'y a strictement rien. Tu es vraiment dans la rue. Et bien, sur Google, la photo satellite de Google, tu as un carré masquant blanc qui a été mis à cet endroit-là, précisément dans la rue, pour masquer cette section-là de la rue, qui est le millage 2007 et plus. Ça ça se produit pas juste à Québec, ça. J'ai trouvé ça dans plusieurs villes. J'ai trouvé ça à Paris. J'ai trouvé ça à Brisbane aussi. T'as ça dans plusieurs villes. Lorsque t'arrives dans des endroits critiques pour lesquels, comme si le plan n'avait pas été détaillé, on avait décidé de mettre une cache pour cacher ce coin-là. Par contre, toujours à Québec, toujours en partant de la même pierre de fondation, cette fois-ci, en verge.
OK.
Et que là, je mesure et je m'en vais sur les plaines. Le chemin des plaines, les deux chemins, bon, un se divise, se rencontre, se resépare, indique l'ensemble des perturbations socio-climatiques qui ont touché la ville de Québec depuis sa fondation. Et lorsque j'arrive aux deux bâtiments qui terminent les plaines, qui sont le Musée du Québec, ils ont construit un nouveau bâtiment entre les deux. Et quand j'arrive au métrage 2007 précisément, donc à 2007 verges de ma fondation de base, je tombe sur un nouveau bâtiment qui a été construit il y a de ça 2 ou 3 ans, qui a été construit entre deux bâtiments déjà existants et sur laquelle, sur le toit, à la surface, les fenêtres de ce bâtiment-là forment un X de 20 mètres de long. Et on est exactement au centre du X. Et chacune des croisées climatiques futures, parce que je les connais, puisque de l'astroclimat, c'est une connaissance que j'ai, quand je vais les mesurer, ces gens-là ont identifié dans un parc qui continue les années 2008, 2009 et 2010, etc., ont identifié toutes les points clés de l'astroclimat, possiblement pour des bâtiments futurs, je ne le sais pas, ont identifié tous les points futurs de l'astroclimat. Donc, ils sont identifiés au sol, dans le gazon. Il y a des points de repère qui ont été placés à ces endroits-là, puis les posséder vont de plus. Lorsque tu mesures de la fondation d'origine, en pied, les vieilles fondations de la ville de Québec, les murs, les vieux murs,
ouais,
qui sont faits tout en coins puis en raccoins, chacun de ces coins, de ces raccoins-là, est à une distance précise du point de fondation d'origine et indique dans le temps chacune des périodes, les envolées climatiques qui ont eu lieu. Alors, quand tu arrives à 1265, ben, c'était l'année 1265 qui était une envolée climatique. Ben, tes as toutes, sont toutes répertoriées. Ils ont été dessinés à l'intérieur même des murs de la vieille forteresse de la ville de Québec. Et ce n'est pas qu'à Québec. C'est comme ça partout ailleurs. Dans le cas de Québec, si on regarde la forteresse des Britanniques qui était construite par la suite, en fait, qui était pas des Britanniques, mais qui a servi aux Britanniques par la suite, qui est rendu maintenant le Royal 22e Régiment, quand tu vas la voir du ciel, c'est une feuille d'érable. C'est la première identification de la feuille d'érable. Mais ça, ce n'est pas canadien, la feuille d'érable. La feuille d'érable, c'est québécois. C'est un Français qui est venu faire ça au Québec, qui a fait ça pour les Québécois à l'époque, qui ont construit ça en forme de feuille d'érable. Maintenant, lorsqu'on se pose la question, pourquoi une feuille d'érable, c'est qu'ils ont mis une troisième fondation aux côtés. Et à partir de cette troisième fondation-là, lorsque tu mesures chacune des points de la feuille d'érable en pied, tu viens de tomber dans le temps sur chacune des périodes de crise climatique qui ont parsemé encore une fois l'histoire du Québec depuis sa fondation jusqu'à 2007. Et la dernière de ces pointes-là, la dernière de ces périodes-là qui est identifiée, il y a eu une période de temps pour laquelle il n'y en a pas eu, parce qu'on n'a pas eu depuis 1850, 70, 80. C'est là que l'information sur le climat a commencé. Et curieusement, depuis cette période-là, il n'y a pas eu de grandes envolées climatiques non plus. Il y en a eu, non, mais pas très sévères. Et c'est la dernière de ces envolées-là, c'est 2007. Et dans tous ces cas-là, dans tous les cas des fondations de villes que j'ai mesurées, il y a une particularité commune. C'est qu'à 2007 pieds, ou 2007 mètres, ou 2007 verges de la pierre de fondation d'origine, du monument de ville d'origine, il existe un second monument de ville. Et là, quand tu viens de découvrir ce second monument de ville, tu viens découvrir le pattern socio-climatique de toute ta région depuis la fondation d'origine, et tu viens découvrir aussi le pattern des fondations, comme je le décris dans le cas de Washington et dans le livre dans le cas de New York, et comme je vais possiblement le mettre en ligne sur la foule de nouveaux sites que j'ai grâce à plein de gens qui ont collaboré de ça.
C'est formidable. Et Pierre, avant qu'on termine, parce que le ruban, il va nous clencher, pour nos amis oui. l'Europe. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ces points-là, disons, sur Paris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le vérifier et qui vont l'apprécier. Donc, si tu veux donner à nos amis de Parisiens, mais Français, puis ailleurs, d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à, si tu veux, à l'architecture tellurique, géotellurique des bâtiments et de tout. Donc, est-ce que tu peux nous dévoiler quelque chose par rapport à Paris, par exemple les points saillants, t'as nommé des points...
En fait, on a parlé d'un chemin, je vais vous en donner un, je vous donnerai pas l'ensemble parce que bientôt, on va avoir un dossier là-dessus, mais ouais. je vais vous en donner un. On a parlé d'un chemin, hein. Dans tous ces cas-là, il y a un calendrier qui suit le long d'un chemin.
Ouais.
Et ce chemin-là, il y en a un aussi à Paris, il y en a plusieurs, mais un de ceux-là, probablement le plus important, part de la Tour de la Défense, et c'est le boulevard Charles de Gaulle. Alors, le boulevard Charles de Gaulle, lorsque tu prends un mesurement en partant de l'église de la Trinité,
okay.
et que tu mesures l'ensemble du boulevard Charles de Gaulle en verge, ce mesurement-là sont les années. Les écueils que tu rencontres dans la route, dans le boulevard Charles de Gaulle elle-même, sont les écueils climatiques et les périodes d'écueils climatiques qui ont été rencontrés. Quand tu arrives à l'extrémité de cette route-là, tu arrives au Palais du Louvre.
Ouais.
Juste l'autre côté du Palais du Louvre.
OK.
T'es à 2007. Et puis là, tu rentres dans l'église. C'est quoi Saint-Germain, je pense, qui est juste...
Oui.
Là, tu rentres dans l'église Saint-Germain. Tu comprends?
Wow.
Critique tout ça, là. Juste l'autre côté. Et je vais te dire que le triangle maçonnique que j'ai trouvé à Washington,
ouais.
je l'ai trouvé aussi à Paris. Dans une autre de ces représentations-là, pour laquelle tu as le triangle maçonnique, et on entre dedans, et à l'extrémité de ce triangle maçonnique-là, c'est dans les deux derniers quarts de 2007. Là, c'est là, et on entre dedans. Le même triangle, la même représentation, qui n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, mais que la franc-maçonnerie n'a pas hésité à reprendre et à utiliser à ses fins, parce que ce qui était ça l'objectif. Dans le fond, c'est ça qui se produit partout. Là. Dès que tu as quelqu'un qui va découvrir, qui va prendre, qui va partir en gros, faire une représentation, vouloir décrier la vérité, comme ça s'est fait à plusieurs reprises dans l'histoire, ce sont des symboles qui sont repris par l'oligarchie en place. Les groupes derrière tout ça sont carrément éradiqués, nettoyés. C'est des choses qui se sont produites à beaucoup de reprises. Là. Quand les Européens sont débarqués, ils ont fait un nettoyage en Amérique du Nord des Indiens qui étaient là. L'objectif était aussi de faire disparaître la mémoire sociétale, qui était de faire disparaître ces connaissances-là. Ces connaissances-là se retrouvent partout, en fait. À partir du moment où tu commences à analyser une ville, tu vas retrouver ce genre de fondation-là, pour laquelle je donne la description, dans le manuel, la description de base, mais ce genre de fondation-là, tu peux le retrouver partout. Et c'est curieux, comme si l'ensemble du futur des villes était dessiné, comme si l'histoire devait être absolument inscrite là, sous un prétexte que je ne connais pas. En fait, je ne connais pas les raisons derrière ça, mais elles doivent être fichtrement importantes parce que les énergies qui ont été mises pour réussir à placer des espèces de monuments... Rends-toi compte des énergies qui ont dû être dépensées pour réussir à placer cette espèce de monument urbain-là, quel qu'il soit, à cet endroit-là précisément, que ce soit sur les plaines à Québec ou que ce soit sur le National Mall à Washington ou à Paris sur le boulevard Charles de Gaulle.
Oui.
Il y a une dynamique derrière ça, et cette dynamique-là, elle est étanche, et elle se retrouve partout, à Québec, à Washington, à Montréal, à Perth en Australie, là, j'en ai pas tant que ça derrière, là, je semble dire qu'il y a non. Mais les villes que j'ai analysées à date en ont tous. Maintenant, il va falloir qu'on se pose la question, l'incompréhension derrière ça, quelles sont les raisons derrière ça? Il va falloir qu'on se questionne. Pourquoi est-ce que nos anciens trouvaient si important que ça que d'aller afficher ce bandeau astrologique-là? Il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant d'importance et d'énergie d'accorder à cacher ce bandeau astrologique-là, parce qu'il était vraiment caché? Et de plus, non seulement le cacher, mais le recréer en encore plus caché, parce qu'il y a des endroits pour lesquels ces mêmes symboles astrologiques-là que tu perds du bandeau astrologique, tu le retrouves par la suite dans un cercle plus centralisé. Sur le dessus des bâtiments, dans les configurations des toits, tu retrouves des symboles astrologiques. Maintenant, on peut comprendre que, un, ce serait presque de la fabulation, mais des fois, tu en retrouves 3, 4, 5, 6 côte à côte, dans une série de bâtiments qui ont été faits par un promoteur donné et qui représentent des configurations astrologiques. La ville est toute astrologique, fait comme si on en décide partout. Attends un peu. Quelle est la grande cause derrière ça? Pourquoi est-ce que je retrouve ça? Non seulement Paris, je peux bien comprendre, mais Québec n'a jamais rien eu d'une ville astrologique, là, ou Washington, ou New York. Là. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça partout? Pourquoi est-ce que tous les anciens allaient jusqu'à une certaine époque, en fait, allaient jusqu'à temps que les Britanniques arrivent? Pourquoi est-ce que tous semblent avoir le besoin de bâtir ces fondations-là avec des signes astrologiques évidents et que par la suite, tout ça tend à disparaître? Il y a vraiment quelque chose de très mystérieux. L'indication 2007 en est une. Les prochains points croisés aussi sont des choses qui, à mon avis, sont très importantes et devraient apporter beaucoup de changements.
Ouais. Ouh, merci. J'ai bien hâte. Ça va être ton tome 2 ou quoi? Pierre, c'est sûr qu'on va mettre tout ça sur le site. Par contre, il y a beaucoup de recherches à faire encore là-dessus. C'est mystérieux. Tous ces symbolismes architecturaux et tout ça, ça pointe vers quoi? Alors,
Mais François-Pierre, je vais t'arrêter une seconde. Je vais apporter une précision. Là.
Oui, vas-y.
Il est certain que pour tous les auditeurs qui nous écoutent, là, qu'ils n'ont qu'à prendre Google Earth, qu'ils n'ont qu'à prendre une carte satellite, même une carte de leur région,
oui,
se mettent à faire des mesurements. Ah. À un moment donné, que ce soit en pied, en verge, en mètre, ils vont trouver la mesure 2007. Ils vont trouver ces fondations de l'autre ville à l'intérieur de leur ville. Je ne sais pas si c'est dans tous les villages du Québec et de la France, mais je peux dire que c'est dans toutes les villes importantes et à tout le moins dans toutes les capitales.
Ouais. Il faut trouver le point central à partir duquel il faut partir.
Mais non. À partir du... Tu mesures tes monuments urbains, et tu vas trouver, à un moment donné, entre deux monuments urbains, tu vas trouver la mesure 2007.
Okay,
que ce soit en mètre, en verge, en pied, tu vas la trouver. À partir du moment où tu la découvres, tu possèdes l'élément principal de la construction de l'architecture des fondations, et avec ça, tu es en mesure. Fait que j'encourage les auditeurs, ils vont l'en trouver dans leur ville. C'est pas farfelu, là. Ils vont l'en trouver dans leur ville. Qu'ils ne mesurent pas les toits, là. Ce ne sont que les monuments de ville. Et tous vont être capables de mettre ça à jour. Je ne comprends pas l'origine de cachette-là, mais il ne devrait pas y avoir de cachette à cet endroit-là. Et s'il y a de l'histoire derrière ça, elle devrait être connue.
Puis qu'est-ce qu'on fait avec 2012? C'est tout le paquet mis 2012. C'est comme qu'on parlait des élections hier. On est en 2007. Ça dure 4 ans. Puis tout le monde disait... Le parti qui va nous conduire jusqu'à 2012, merde, là, ils vont tous terminer en 2011. Tu sais, je veux dire, ça dure 4 ans, le mandat. Le mandat dure 4 ans. Donc, c'est 2007, on fait les élections au mois de mars.
Ouais.
Avril 2008, plus 4, ça fait 2011. Pourquoi tout le monde veut nous conduire vers 2012? Il y a un gros groupe psychique. Comme si 2012 était l'année officielle du gouvernement mondial ou à partir de 2012, on repart l'année zéro.
Washington,
oui.
La présence du Capitole. Et la présence du Capitole, c'est quelque chose de particulier aussi. Hein. Le Capitole a été construit comme un temple, mais pas exactement respectant les principes d'un temple, et situé directement sur le point de croisée. Lorsque tu regardes la façon dont le Capitole est construit, tu as 4 niveaux d'escalier.
Ouais.
C'est 4 niveaux de marche concurremment qui montent chacun de leur côté de la fontaine pour arriver à un point central en 2012.
Ouais.
Il est fort probable que le plan d'un espèce de futur dessiné autour des croisées climatiques soit dessiné dans le Capitole, comme entre autres les 4 cavaliers de l'Apocalypse, parce que tu as 4 étapes de marche. Alors, évidemment, ce que les auditeurs doivent garder à l'esprit dans ça, puis en termes de changement climatique, il faut le garder à l'esprit aussi. Les prochains mois vont être tournants, vont être clés dans ça. Si des changements climatiques importants surviennent en courant du mois de mai, en courant du mois de juin, il faut s'attendre à voir une escalade impressionnante dans les mois suivants. Ça va arrêter, mais difficilement cette année. Hein, c'est des choses qu'on va voir plus dans le courant des autres années. Donc, c'est à repérer, c'est à regarder avec beaucoup de détails, parce que beaucoup d'auditeurs vont écouter ça, puis vont se pencheront pas trop là-dessus. Ils vont continuer peut-être à croire que la caravane du climat est pas si mal.
Ou bien que tu t'es trompé, royalement.
Je me suis trompé, puis dans le fond, c'est correct. En fait, même à certains points, j'aimerais ça aussi m'être trompé. Hein. Ça veut dire que ça n'arrivera pas tout ça. Sauf qu'on n'en est pas là. Et l'évaluation des prochains mois est clé à comprendre si ça en vient. Fait qu'à partir du moment où est-ce que le réchauffement climatique te prédit des conséquences dans 100 ans ou dans 200 ans, La journée où tu vas avoir une série de tremblements de terre excessifs exploser littéralement, ou une série de bouleversements climatiques intenses à l'intérieur d'une période très réduite, comme quelques semaines, comme dans les prochaines semaines, bien à ce moment-là, je crois que tous les auditeurs vont être en mesure de se rendre compte que la mesure sur laquelle j'ai basé mes calculs est bonne. Okay. Et que là, les autres étapes devraient être envisagées avec beaucoup de sérieux. Ce que je dis, la base de calcul derrière tout ça, elle est solide. Je comprends qu'elle n'est pas scientifiquement reconnue, mais elle est solide et la mesure est sérieuse derrière tout ça.
En tout cas, mon grand, tu nous éclaires tout en nous faisant peur, tout ça. Moi, j'ai envie de te dire, mais t'es qui, toi, de Châtillon?
Je suis quelqu'un qui a toujours... En fait, je suis un autodidacte, je suis quelqu'un qui a toujours lu beaucoup. Je suis un grand lecteur. Je possède une grande bibliothèque, j'ai beaucoup de livres. Et c'est pour moi, c'est une passion. La passion, c'est de lire. Si on dépasse ce phénomène-là, j'ai toujours un peu cru dans le système dans lequel je fonctionnais. Hein. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai eu un bon emploi, j'ai eu un bon travail. J'ai toujours cru dans le système dans lequel on fonctionnait, jusqu'à temps que je me rende compte que ça, cet élément-là particulièrement concernant le climat, avait été dit il y a 2500 ans. Et que lorsque j'ai pris cet élément-là, tout en croyant naïvement que cet élément-là avait été par mégarde mal compris ou par mégarde laissé de côté par toute la trollée de gens qui ont lu Platon par la suite, et que j'ai voulu l'adresser à des gens faisant partie de la caste des scientifiques au Québec, au Canada, ou même partout, en fait, j'en adressais à certains en France, et que j'ai vu que les portes se fermaient, là, j'ai compris que le processus-là n'avait plus rien de scientifique. Là. L'analyse de ça, c'est simple. Je te montre le graphique de climat et je te montre le graphique de la position des planètes. Tout de suite, tu vas être capable de comprendre l'association entre les deux. Si toi, tu peux le faire, si moi, je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Et même quelqu'un qui possède des habiletés scientifiques, mais à partir du moment où une reconnaissance scientifique, mais à partir du moment où il ne le regarde pas, ben là, il y a quoi qui ne va pas, là? Ça veut-tu dire qu'on veut pas le régler? Moi, je n'ai aucune prétention dans ça. Je suis pas là pour faire de l'argent, je suis pas là pour vendre un livre à gros succès, je suis pas là pour être reconnu, je suis pas là pour être un gourou, je suis juste seul de mon bord de la rue en possédant quelque chose que j'ai découvert il y a longtemps, quelque chose qui est à mi-chemin, qui n'existe pas ni dans la science, ni dans la religion, ni dans l'astrologie, ni dans la monarchie nulle part. Hein? Puis là, je suis pris avec ça dans mes mains, tout seul, de mon bord de boulevard, mais je sais que j'ai raison, car la correspondance ne peut pas être éliminée. Donc, j'ai raison là, à un moment donné, il faut que j'aie raison sur le reste. Et là, je me tiens debout pour être capable d'identifier ça haut et fort, car c'est très important, compte tenu du fait que ça affecte la nourriture dans mon assiette demain. Et c'est pour ça que je le tiens haut et fort, et que j'ai hâte que des gens s'arrêtent à regarder ça aussi.
Formidable, bien. Ben, un gros merci de tout ce partage-là. Évidemment, ce n'est que partie remise. Évidemment aussi, on va pouvoir apporter des surprises ces nouvelles découvertes-là sur Paris, Québec, tout ça. Bon, ça prend le temps de le monter. Il y a plein d'images, il y a tout ça. On te laisse le temps de le faire. D'ici là, on demande aux gens de faire connaître bouleversement climatique et de le lire eux-mêmes s'ils ne l'ont pas lu, parce que c'est un livre qui est écrit par un libre penseur, une espèce de rebelle intellectuel qui décrit assez bien la censure autour de ça et à travers l'histoire, et qui nous apporte des éléments vraiment fantastiques sur la Statue de la Liberté, et les documents de Washington sont sur le site de conspiration.cc. Je mettrai un lien direct sur lequel vous pourrez immédiatement retrouver toutes les pages de Pierre concernant le monument de Washington. S'il y a quelqu'un qui a l'intention de le traduire, on serait bien heureux, non? Pierre et moi seraient bien heureux. Maintenant, c'est ça, ce n'est qu'une première, et je dis merci et un bon retour à Sabule, à Pierre.
Hey, merci à toi, François-Pierre.
Merci, mon gars. Merci. Très bien.
Bye.
Au revoir.